Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h01 sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. Ça y est, on reprend nos droits. Eh oui, tous les jours, du lundi au vendredi, de 18h à 20h, c'est Rotten sans flamme. On refait toute l'actu du foot. Et il y en a tous les jours de l'actu du foot avec des invités prestigieux. Ça sera encore le cas aujourd'hui. Quel prestige aujourd'hui. Vous verrez la surprise à 18h45. En tout cas, on a le plaisir de, comme tous les jours, d'être bien entouré dans Rotten sans flamme avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
Ah bah ça va super.
Écoute, franchement, magnifique.
On va atteindre le million de vues sur ta liste des bleus publiée hier. Incroyable. Rotten sélectionneur, c'est un véritable carton.
Merci à tous. Je pensais pas que je pouvais avoir ce rôle-là. Et là,
la pression que tu mets sur les épaules de Dédé, c'est incroyable.
La France a besoin de moi et je suis content d'aider mon pays.
Bravo.
Et on va réussir à être champion du monde.
T'es patriote, toi, bravo.
Exactement, je suis patriote. Il y en a un qui l'a montré aussi, qui était patriote.
Oui.
Et depuis de nombreuses années. Écoute, 50 ans de commentaires, 60 ans de commentaires, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Oui, la TVA. Bonjour à tous.
Bonjour Jean-Michel.
Tout va bien.
Bon, ça va Jean-Mi?
Oui, tout va bien.
T'as vu ma liste? C'est bon, t'es satisfait?
J'ai vu ta liste et tes deux surprises et ça. D'entrée, chevalier, vachement content. D'entrée, là.
C'est une photographie à l'instant.
Écoute, Jean-Michel, comme on dit sur une liste, elle n'est pas définitive. Voilà. Et j'attends des réactions demain soir. Il y a avec des champions.
Bravo, Jérôme. Ah,
elle peut évoluer, la liste. Hein. Elle va évoluer, de toute façon. Mais bon, il y en a un qui connaît les listes, mais lui, il ne les regardait même pas parce que c'était d'office. Il était dans la liste. Non, c'est Younes Belanda avec nous. Salut Younes. Jérôme.
Salut, j'espère que tu vas bien.
Salut Younes.
Ça va, écoute Younes.
Salut à tous.
Écoute, depuis que le Sénégal est champion d'Afrique, tout va bien.
Faut plus sombrer, c'est
fini. Non, je plaisante, écoute.
Ça fait pas rire. Hein.
Non, non.
Faut
plus sombrer, il a dit.
J'ai pas l'impression que ça le fasse.
Younes, écoute. C'est comme ça, c'est le football.
C'est comme ça, c'est le foot. Hein.
Exactement. Il y en a un qui gagne, un qui perd.
Exactement.
Ouais. Écoute, on a hâte de voir la Coupe du Monde.
Content que tu sois là, Younes.
En tout cas, on est content.
Ouais, c'est gentil, merci.
Ouais, avec beaucoup de bons débats. Et donc, un invité à 18h45. Allô, Jérôme. Daniel Riolo de l'After va venir dans Rotten sans flamme. Parce que pour lui, la Super League peut sauver le foot. Il va tout nous expliquer. Vous donnerez votre avis. Jérôme, Jean-Michel et Younes. Les propos donc de Daniel Riolo à 18h45 sur RMC. À 19h, on parlera de Lille. Est-ce que le LOSC doit changer pour se relever? Bruno Genesio a dit qu'il sera bien là pour le match de Ligue Europa. On fera le point d'ailleurs sur les relations entre Genesio et l'Étang.
Pourtant, il avait.
La semaine dernière, on vous avait annoncé un fort RMC Sport qu'il avait proposé sa démission. Ouais. Démission refusée. Version contredite
refusée
par le club.
Mais que l'on maintient Olivier Létang.
À RMC. Parle Olivier Létang.
Mais pas forcément par les joueurs, parce qu'on l'a vu ce week-end.
Ouais, c'est vrai, on pourra en reparler. Et puis à 18h30, le procès.
Ils sont tous derrière le.
Ça s'est vu
contre Strasbourg.
Ah, surtout à 0-4.
Ah ouais, c'était dingue. 18h30, donc, le procès de la préfecture de Paris, qui interdit la venue des supporters marseillais pour deux matchs. Paris FC, OM, samedi, et ensuite le match entre le PSG et l'Olympique de Marseille. On aura deux procureurs et un avocat dans ce procès. Ne manquez pas ce grand rendez-vous à partir de 18h30. Il est 18h04 sur RMC. Tout de suite, Paris mise encore sur ses jeunes talents.
The Voice Kids, enfin de retour.
Il n'y a pas meilleur endroit pour grandir. Le projet actuel avec les jeunes est incroyable grâce à l'entraîneur.
Les fauteuils de The Voice Kids accueillent de nouveaux coachs prestigieux.
On est ouvert, la direction sportive avec Luis Campos pour chercher à améliorer encore l'effectif.
J'ai rarement vécu un début de battle aussi intense.
On a beaucoup de confiance de le coach. Il a fait très bon travail avec Luis Campos pour choisir les joueurs.
De nouveaux coachs prestigieux pour une saison incroyable.
Une équipe, c'est comme un puzzle, il faut que les pièces y font clic.
Petit par la taille, grand par le talent.
Aucun regret sur le mercato d'été, sur le.
Rien. Zéro regret, on a fait ce qu'on a pensé à faire.
The Voice Kids, nouvelle saison.
Cette veille de match, donc pour le PSG, demain c'est Ligue des Champions, la dernière journée de la phase de poule. PSG Newcastle. Une victoire devrait suffire au PSG pour assurer une place dans le top 8. Mais donc l'actu, c'est l'arrivée de ce jeune Dro Fernandez, 18 ans, milieu de terrain, qui arrive en provenance du Barça. 6 millions d'euros, c'était le montant de sa clause libératoire. On en parle avec Valentin Jamin. Salut Valentin.
Salut les amis. Salut à tous.
Tu étais au campus ce matin. Tu as donc assisté au premier pas de la recrue, comme ça, sous le maillot parisien. Un profil qui était ciblé par la direction parisienne.
C'est ça, parce que la direction parisienne, cet hiver, en fait, est plus dans un marché, une volonté d'évoluer dans un marché d'opportunités, on va dire. On n'est pas dans la dynamique de l'été, par exemple. On voulait cibler des postes en particulier, la défense centrale avec Zabarni, le gardien, ou même l'hiver dernier, quand on avait ramené Kvaratskhelia, parce qu'il y avait besoin de concurrence devant. Paris estime être assez fourni, on va dire, en termes de concurrence. Donc là, on est plus sur un PSG qui lorgne des profils jeunes, comme ils l'ont fait avec les Neves, les Doué, les Barcola, et dans une dynamique d'opportunités. C'est ce qu'ils ont fait donc avec Dro Fernandez, 5 matchs en pro seulement, donc ça reste un pari en quelque sorte, pas très cher, tu l'as dit Benoît, en soi, puisqu'il a été acheté alors un peu plus de 8 millions parce qu'ils ont fait un peu plus que la clause pour des raisons, j'allais dire, politiques et une bonne entente avec le Barça. Dro Fernandez qui a le même entourage, le même agent que Luis Enrique, donc ça a aussi un petit peu facilité le deal. Mais voilà la dynamique parisienne. Il s'est entraîné ce matin, tu l'as dit, il a été chaleureusement accueilli par ses coéquipiers, par Luis Enrique aussi, qui a expliqué ce matin son recrutement en conférence de presse.
Nous sommes signés des joueurs jeunes après savoir qu'il veut les parties de son dernière équipe. Et c'est ça qui représente pour nous être ouvert et être prêt dans le mercato. Et nous sommes les joueurs de qualité. Ce n'est pas facile de trouver des joueurs de qualité pour améliorer notre effectif. Je pense que dans l'avenir, Dro peut-être un joueur important. C'est important de rester ouvert au mercato.
Et il a répété ce matin, le mercato est ouvert encore pour le Paris Saint-Germain si jamais il y a par exemple d'autres ouvertures de ce type.
Merci Valentin, c'est la une du Rotten sans flamme. Est-ce que le PSG a raison de miser sur la jeunesse? On a regardé ce matin, la moyenne d'âge de l'effectif parisien, c'est 23 ans. Donc effectif très jeune. Jérôme, est-ce que c'est un bon pari de miser sur la jeunesse?
Bah écoute, le pari il est réussi, je crois qu'ils sont champions d'Europe, il me semble. Donc avec un effectif très jeune, ils étaient en avance, c'était pas attendu, on l'avait dit, hein, dernière, tout au long de l'année dernière, il s'était fait à l'idée de pas forcément gagner la Ligue des Champions dès l'année dernière, et ça a été fait à la surprise générale, certainement même au sein du club. Je pense que tout le monde a été surpris de l'évolution, de la progression de certains jeunes, avec des cadres qui étaient au rendez-vous. Tout s'est bien passé, les planètes étaient bien alignées, donc ils sont dans la continuité. Moi, je vous le dis sans cesse, parce que je connais bien ce club-là, et je sais exactement ce qu'ils veulent mettre en place depuis maintenant quasiment 3 ans. C'est une politique de jeunes, en effet, il y a une prise de risque. Alors c'est pas un centre de formation, hein, le Paris Saint-Germain, pour autant, mais ils veulent s'inscrire dans, si tu veux, les meilleurs jeunes de France déjà. Les intégrer au Paris Saint-Germain s'ils sortent pas de leur centre de formation. Et quand les jeunes français ne peuvent pas tous venir au Paris Saint-Germain, ou dans le style Luis Enrique, parce que c'est un style bien précis, on l'a vu là, tout au long de l'année dernière, surtout pour les milieux de terrain, je pense qu'il est ouvert un peu aux meilleurs jeunes étrangers. Et là, en effet, ils te disent que c'est une opportunité. Mais c'est une opportunité sur le moyen terme. Attention, quand tu prends un joueur comme ça qui
150 minutes en pro,
qui a que 5 matchs en pro, bien sûr que il y a déjà la prise de risque, c'est que quand il va jouer, il va pas forcément être tout de suite opérationnel, il le sera, mais peut-être pas tout de suite performant. Et il faudra peut-être attendre, parce que c'est le défaut de la jeunesse, et on le voit avec certains, Mayulu entre autres. Moi, Mayulu, l'année dernière, c'est incroyable ce qu'il a fait. J'adore ce joueur, j'adore l'attitude. Après, il faut reconnaître que les performances, elles sont moins bonnes cette année, parce que peut-être du mal à gérer l'atmosphère, le niveau qu'il a mis en l'année dernière
c'est
en place.
Une crise avec... de croissance aussi, ça arrive parfois.
C'est un jeune joueur, donc c'est le défaut de la jeunesse. Ce que je veux dire, si les mecs à 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils étaient déjà ultra.
Et c'est le même défaut qu'aura Dro Fernandez.
Défaut qu'aura Dro Fernandez. Le tout, c'est qu'il faudra être patient. Alors peut-être que médiatiquement, en effet, on le sera pas, parce que c'est le Paris Saint-Germain. Mais eux, je sais qu'en interne, ils seront patients. Et c'est pour ça
que tu le signes, c'est pour le faire jouer quand même. Hein. Mais... c'est pour être dans la rotation du milieu de terrain.
Oui, il sera dans le turnover, hein, ça c'est sûr et certain. Et après, aux côtés de Vitinha, Neves, je pense qu'il s'en sortira très bien. Ouais. On a vu le cas avec Zaire Emery. Quand il est arrivé, il a tout pété. Hein. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il pète tout d'entrée. Hein.
Mais Younes, ils savent aussi le club. Je sais parce que j'ai échangé avec les dirigeants aujourd'hui et ceux qui ont décidé de sa venue. Et ils te disent tous que de toute façon, il n'y a pas besoin de connaître parfaitement de football pour se rendre compte que ce jeune-là, il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent techniquement. Moi, j'ai regardé quelques vidéos, parce que je te dis, je ne le connaissais pas.
Des bouts de match qu'il a fait en
pro.
Ouais.
Des bouts de match, mais même en jeune, tout à l'heure, j'ai essayé de regarder. C'est vrai qu'il a l'élégance avec le ballon au pied. Il sait tout faire, pied droit, pied gauche, dans la vision. Tu as l'impression qu'en effet, avec les équipes de jeunes, il s'est régalé parce qu'il était en avance. Là, après, au niveau professionnel, ce qui va changer pour lui, c'est... il faut joindre, si tu veux, la technique, la vision avec le physique. Parce que physiquement, on le voit, là, c'est
il est léger,
le problème
il est...
qu'il a pour l'instant.
Ah, tu l'as vu, toi.
Il est mince.
Mais tu sais qu'ils te prennent.
Quand tu vois l'effectif du PSG, tu vois la moyenne d'âge et surtout les joueurs qui sont titulaires, comme tu vois Barcola, Doué, Mendes, ils sont tous en dessous de 25 ans.
Bah, hein,
ils sont tous
jeunes. Mais
ouais, c'est pour ça. Donc, il est dans la.
Donc, moi, ça me choque pas de cette politique de prendre des.
De toute façon, il y a pas.
Le passé, ils ont pris des joueurs qui étaient plus expérimentés, ils se sont cassés la gueule.
Il y a un seul trentenaire en PSG, c'est Marquinhos.
Mais de toute façon, c'est.
Le plus vieux, je crois que c'est Ousmane Dembélé. Donc,
non, c'est Marquinhos, 31.
Marquinhos.
Il y a Marquinhos, je l'ai oublié, ouais. Marquinhos.
Jean-Michel, donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de.
Non, mais. Bon, d'abord, je suis. Il y a jeune et jeune. Là, on parle d'un garçon qui a donc une centaine de minutes en.
Ouais, c'est un adolescent, quoi.
En première division. Ça me rappelle un jeune qui sortait du Paris Saint-Germain, je crois, et qui est allé à Saint-Étienne, qu'on présentait comme une pépite. C'était le terme à la mode. Il a fait une saison et demie moyenne et il a disparu des radars.
Ah ouais,
bah c'est il y a jeune et jeune.
C'était une autre période.
Le Caïs.
Comment c'était?
C'était
Aouchiche. Aujourd'hui en Écosse.
Si quelqu'un me dit où il est.
En Écosse.
Il me donnera une information.
Il est en Écosse, mais pas au Celtic ni au Glasgow.
Non, il est à Hibernian.
D'accord.
Aberdeen, pardon.
Et ça me rappelle ça. Non, mais les gars.
Aberdeen, ils sont
premiers. Ça ne peut pas être la politique quand on dit qu'on fait une politique que de vedettes. Eh bien, on s'en est aperçu au Paris Saint-Germain, à un moment donné. Il y avait ce fameux plafond que les Parisiens n'arrivaient pas à percer. Avec pourtant des Neymar, des Messi, des Mbappé, c'était incroyable. Hein, on faisait des transferts à 220 millions, à 70 millions, à 150 millions, et on n'y arrivait pas. Et de la même manière, au risque de jouer les pisse froid, je vous dis que je ne crois pas, et surtout pas, dans un club comme le Paris Saint-Germain, qui doit être au top niveau du début à la fin. Alors il peut se contenter parfois d'être en mode tranquille dans certains matchs, et notamment dans la Ligue 1 française. Ça, il n'a pas besoin d'être à 100%. Voilà.
Quoique cette année, ils forcent un petit peu, parce que par moment, ils se font accrocher en Ligue 1.
Oui, j'entends bien. Par moment, et peut-être... Et peut-être, je te le souffle comme ça, Jérôme, peut-être que c'est parce qu'ils ont voulu faire une politique de jeunes.
C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord.
Lorsqu'il y a des titulaires absents pour blessure ou suspension,
ça se ressent tout de suite.
Ils mettent des jeunes et comme par hasard, tu me dis, moi je ne pense pas, mais bon, je suis un tout petit peu plus optimiste que toi, Jérôme, mais je ne crois pas une seule seconde que la nouvelle politique du Paris Saint-Germain soit une politique de jeunes.
Bah si,
si Jean-Michel.
Ils l'ont quand même souvent répété, on a serré la phrase à Philippe Campos.
Mais qu'est-ce qui te dit le contraire?
Que l'homme. Eh bien, s'ils font ça, c'est pour moi une erreur.
Mais c'est ce qu'ils ont fait tout au long depuis 3 ans. Allez, c'est un peu ça, non?
Non, mais il y a jeunes et jeunes. Tu ne vas pas comparer l'expérience de Neves avec l'expérience de Dro Fernandez. Tu ne vas pas comparer. Même Barcola, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il avait 70 matchs de Ligue 1 dans les pattes. Il y a jeune et jeune,
non,
les gars.
Non, mais on est d'accord.
Dans l'immédiat, le PSG, ils ont besoin de personne. Hein. Ils ont besoin de personne.
Avec de rotation un peu, Younes, quand même.
C'est pour ça qu'ils misent sur des jeunes. C'est pour ça qu'ils misent sur des jeunes.
Ouais.
Je
pense que avec l'effectif qu'ils ont et la Ligue 1, ils vont la prendre. Et en Ligue des Champions, il faut juste qu'ils élèvent.
Mais justement, regardez l'exemple de l'an dernier. Ils sont allés chercher Kvara assez cher au mercato d'hiver et ça leur a comblé une carence qui leur a permis d'être bons sur la deuxième partie de saison.
Ne présente pas le truc comme ça.
Mais là, il est en Doué, Barco, là, tu as des joueurs. Mais
Kvara, c'est pas tombé du ciel. Ça fait deux ans qu'il l'a mis à la carence
et des ouais.
Un jeune comme Trop Fernandez et des jeunes comme Neves qui sont jeunes. Ou Nuno Mendes.
C'est pas les mêmes jeunes, ça, on est d'accord.
C'est pas des jeunes, tu l'as vu l'année dernière. Il était la pièce maîtresse du jeu parisien l'année dernière.
Ils ont gagné les champions, si plus jeune.
C'est un jeune, mais qui est pièce maîtresse
du jeu parisien. Écoutez-vous, vas-y, Jean-Michel.
J'aimerais bien que le Paris Saint-Germain fasse une politique de joueurs confirmés de talent et parallèlement une politique de jeunes.
Mais c'est ce qu'ils font.
N'empêche pas l'autre. Non, puisqu'ils disent, Alors, la question est pas bonne. On m'a parlé que c'était la nouvelle politique. C'était une politique de jeunes.
Non, c'est parce que en fait, alors, quand ils te disent ça, non mais Jean-Michel,
moi, j'écoute bêtement le conducteur de l'émission. Moi.
Mais c'est pas une question d'être. Younes, il vient de te le dire. Et c'est vrai que moi j'ai la même vision que Younes. Aujourd'hui, en joueur d'expérience, je te parle. Le PSG a besoin de personne. Ils sont champions d'Europe, les mecs, ils ont excellé l'année dernière. Qu'est-ce que tu vas rajouter un mec d'expérience à ce collectif? C'est pas possible. Ils ont déjà pris, si tu veux, des doublures sur le mercato d'été, c'est-à-dire la doublure à Marquinhos. Zabarni, qui est quand même un jeune joueur avec de l'expérience, pas la même genre de joueur que Dro Fernandez. Jean-Michel, je suis d'accord avec toi.
On est bien d'accord.
Mais derrière, n'empêche que vu que t'as pas besoin de rapporter encore plus d'expérience à ce collectif, t'es obligé de te tourner vers des jeunes joueurs. Donc, tu peux avoir l'opportunité, parce que c'est une question d'opportunité, de prendre des mecs comme Neves ou Nuno Mendes à l'époque quand ils sont arrivés, ou même Vitinha. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'opportunité comme ça. Peut-être que c'est trop cher quand ils regardent autre part qu'en France, c'est-à-dire en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou au Portugal. C'est peut-être trop cher aujourd'hui. Donc, ils ne font pas ce genre d'efforts pour ces jeunes joueurs-là. Oui. Et ils se retournent vers des beaucoup plus jeunes où là, t'es presque en formation encore. Dro Fernandez, en effet, c'est un joueur. C'est pour ça que je te donnais l'exemple tout à l'heure, peu de Mayulu.
C'est le joueur complément.
Et c'est l'exemple qui est.
En plus, Jérôme, c'est le style de joueurs du coach parce que
en plus
c'est son équipe tu vois et un jeune qui arrive comme ça il sait ce qu'il va lui demander et le jeune on en reparlera mais moi j'en suis sûr qu'il marchera
et ben on verra autre argument avant d'accueillir Thomas c'est que ok tu prends un jeune qui termine sa formation de 18 ans Dro Fernandez mais est-ce que en le prenant tu bouges pas une porte à un autre qui sort de ton centre de formation est-ce qu'en prenant Dro Fernandez tu vas pas limiter le temps de jeu de Mayulu ou de Njonto ou d'un autre
mais ils sont pas complètement bêtes
c'est là où c'est bizarre la politique en fait
mais c'est pas bizarre c'est qu'il y a un joueur comme Dro Fernandez je te le dis parce qu'ils me l'ont dit aujourd'hui
ouais.
Ils en ont pas au centre de formation ou des jeunes joueurs.
C'est
quel
poste ?
Ils sont
dans les trois milieux de terrain.
Oui, mais ils ont pas ce.
C'est le poste de Mayulu.
Non, mais ça va pas empêcher Mayulu de jouer. Mayulu, il est pas au même niveau que Dro Fernandez, rassure-moi. Même si. Mais Mayulu, ben moi je vais te dire ce qu'ils m'ont dit parce que c'est comme ça et il y a pas que le staff, il y a aussi le staff médical qui est en soins ou les préparateurs physiques. Ils te disent que Mayulu, quand il est arrivé. Donc c'est maintenant il y a deux ans à peu près dans l'effectif qu'il a commencé à jouer. Il était frêle comme Dro Fernandez aujourd'hui. Tu vois les jambes de Dro Fernandez, ça fait flipper. Tu te dis oh là là, putain, il va falloir qu'il soit bon, qu'il fuit un peu les duels, sinon il va se faire ramasser en Ligue 1. Je te le dis, ça c'est clair. Mais ils sont prêts à attendre, si tu veux, que lui se transforme physiquement comme Mayulu s'est transformé.
Mayulu dans la hiérarchie est devant Dro Fernandez.
Et bien sûr, déjà parce qu'il a beaucoup plus d'expérience. Il est quand même champion d'Europe. Avec ce PSG-là, en ayant, alors même si vous avez joué sur les mots la dernière fois, c'est Jean-Michel, il a pas beaucoup joué.
Non, j'ai pas joué sur les mots.
En Ligue des Champions, il a pas beaucoup joué l'année dernière, mais en Ligue 1, il a quand même beaucoup joué. Et là, il a beaucoup joué depuis le début de saison, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. En effet, depuis le début de saison, si tu veux, ce qu'il voit.
C'est le huitième temps de jeu de l'effectif.
Il a tellement bien joué qu'on lui a pris en remplaçant. Donc
non, c'est pas vrai.
Mayulu, champion d'Europe et déclassé.
Après, Mayulu, il joue partout cette saison. Latéral droit.
Les joueurs qui jouent partout, ils jouent nulle part.
Non,
c'est ça. On dirait
que je pense que c'est vraiment le choix de l'entraîneur de prendre Dro. Donc, je pense que c'est le style qui correspond. Et dans le milieu qu'il a, il se fondra plus et ça le facilitera.
Oui, il va le façonner.
Accueillons Thomas, supporter parisien, Jérôme.
Salut Thomas.
Salut Jérôme.
Bienvenue Thomas. Bon, Alors, salut, est-ce que t'es satisfait, toi, déjà d'une recrue comme Dro Fernandez aujourd'hui?
Non, moi, je vais pas dire que je suis satisfait parce que forcément, j'ai vu le profil du joueur. On est peu à l'avoir vu jouer.
C'est vrai.
Maintenant, on se doute un peu du profil qu'il a en fait aujourd'hui, parce qu'on sait comment la direction fonctionne sur et travaille sur les sur le recrutement. Maintenant, c'est vraiment identifier jeunes pépites pour les façonner, les développer au sein du club. Alors moi, c'est plus ça qui me plaît en fait, c'est cette stratégie là parce que c'est un projet sur du long terme, mais en même temps tu peux gagner sur du court terme, et on l'a vu, le plus bel exemple, ouais, c'est la victoire en Ligue des Champions. Donc c'est quelque chose qui me plaît, parce qu'en fait c'est aussi des joueurs qui vont maintenant, en fait t'as inversé un peu la donne, c'est-à-dire que tu peux présenter en fait un projet à des jeunes joueurs en disant, mais écoute, viens à Paris, tu vas avoir ta chance, tu vas jouer, on va faire en sorte que tu
ça,
sois un bon joueur. Et alors qu'avant tu vois, le dernier exemple en date pour moi, c'est un mec comme Ekitike, le joueur où il arrive à Paris, mais c'est bouché de chez bouché.
Ah, c'était notre époque, tout à fait.
Ouais, et puis c'est pas si loin que ça.
Et puis t'es obligé de mettre.
Ouais, il pouvait pas jouer.
Et t'es obligé de mettre 50 millions, je sais plus combien c'était, voilà. Ouais.
Et c'est ça, donc c'est pas.
Et devait être trois joueurs qui sont en fait. C'était 30 millions, donc, 35, je crois, 35.
Voilà, donc ce qui me plaît à la rigueur, c'est cette nouvelle politique en fait que tu mènes à travers ces profils-là. Après, forcément, je me doute que Luis Enrique est derrière tout ça, donc forcément, le gamin, il a du ballon. Et puis après, on verra ce que ça donne. Mais moi, j'ai pleinement confiance en cette politique-là. Et vous parliez de Mayulu, des jeunes qui sont déjà présents en club. En fait, la direction, ils vont pas bosser qu'en se disant, ah bah c'est bon, on a Mayulu, on a d'autres pépites.
Bah oui.
Croyez-moi, ils sont déjà en train de travailler sur d'autres profils, d'autres jeunes très très bons.
Surtout que t'as Zahir Emery qui a basculé arrière droit, donc ça te libère une place au milieu.
Oui, et puis à l'inverse, quand Hakimi revient, par exemple, tu vois, il peut aussi étoffer le milieu. Et, ouais, et voilà, des joueurs comme ça, forcément, c'est dans une saison, t'as toujours besoin de ces gars-là. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai vraiment... Ça me plaît, en fait, de voir ces gars-là s'inscrire dans la durée.
T'aimes bien
Non, mais Thomas, là où t'as raison, et c'est vrai que c'est au club, c'est ce qu'ils te disent aussi, là où ils sont contents, si tu veux, d'avoir réalisé ce coup-là, c'est que ce joueur-là, quand il a annoncé, parce qu'il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas, lui, le joueur, avec son entourage, avec ses agents, été voir Barcelone en disant nous on veut partir parce qu'il y a pas
c'est le même agent Valentin Gladi que Luis Enrique, Ivan de la Peña,
exactement, mais n'empêche que peut-être que ça a facilité les choses, c'est sûr, dans le relationnel, mais après le joueur c'est lui qui décide. Ce que je veux dire là où ils sont contents, le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils se disent mais le mec il aurait pu, parce qu'il avait beaucoup d'offres, hein, beaucoup de contacts en Angleterre surtout, il aurait pu choisir un club anglais qui est aussi très important, il choisit le Paris Saint-Germain. Donc en fait, si tu veux, aujourd'hui,
enfin, le coach te veut, c'est un ami de ton agent, t'es champion d'Europe.
Non, mais ce que disait Pacho aussi, c'est que tu sais qu'à Paris, tu vas jouer quand t'es jeune, quand tu vois qu'il a fait jouer énormément de joueurs, même de moins de 20 ans.
Tout Luis Enrique qu'il est, si le PSG avait pas grandi, même avec du temps de jeu promis, je pense que le mec aurait préféré aller jouer avec Guardiola, parce que Guardiola est totalement et les mecs ils réfléchissaient même pas, ils se disaient bon, Paris c'est très bien, Luis Enrique c'est fantastique, Luis Campos, nanana, il me donne tel salaire, mais je vais aller prendre des références avec Guardiola. Mais oui, alors que là, ça s'inverse un petit peu. Bah, tant mieux.
Merci Valentin Germain d'être venu.
Demain, c'est pas demain. Il est pas sur la liste de Newcastle, mais
et il intégrera peut-être pour le barrage.
Et ce week-end à Strasbourg.
Pour les huitièmes de finale direct.
Pas à Strasbourg, mais il va pas tarder. De toute façon, il va jouer un peu.
Merci Valentin. Demain, PSG Newcastle à 21h sur RMC et dans un instant. Le procès de la préfecture de Paris qui interdit la venue des supporters marseillais, notamment samedi, pour le match au Paris FC. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h29 sur RMC. On est là, on est bien dans Rotten sans flamme. C'est la deuxième demi-heure avec Younes Belhanda, avec Jean-Michel Larquet et Benoît Boutron. À 18h45, Daniel Riolo s'est invité dans Rotten sans flamme. Membre éminent, forcément le membre de l'After.
Eh oui.
Voilà, les 20 ans de l'After.
Eh oui.
Eh oui, c'est 20 ans.
Et on est content de le recevoir.
20 ans qu'on l'entend.
Il va nous expliquer pourquoi la Super League peut sauver le foot.
Donc il y a un des saucisses en 20 ans.
À 18h45.
Pas que des saucisses, hein, parce que ça, il ne va pas être content si je dis ça.
Mais nous peut pas ce...
à lui tout seul. Ouais.
Ne loupe pas ce grand moment, mais ça lui fera plaisir de vous retrouver à l'antenne.
Jean-Michel. Ça va lui faire plaisir.
Bah, oui. Mais pourquoi il a ouvert une pizzeria? C'est vrai qu'il aurait pu ouvrir une charcuterie.
Ah bah on lui posera la question. C'est une bonne question à lui poser, ça. Mais tout de suite, parlons donc de l'interdiction de déplacement des supporters marseillais.
RMC, Rotten sans flamme.
Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football?
J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais
connais Zazie, bon,
Zazie, ouais.
je l'adore comme joueur. Ouais.
Le procès de Rotten sans flamme.
Ça vieillit pas, ça marche toujours. C'est incroyable.
Ah, c'était fou ça. Quand
même. Ah, c'était fou. Ouais. À l'époque, Jean-Michel Larquet, c'était Zazie, le foot comme on
Zazie.
L'a dit. Alors, la préfecture de police de Paris a donc interdit le déplacement des supporters marseillais
entre lui et Jacques Chirac
pour le match au Parc des Princes déjà le 8 février. Donc, les justifications, c'est qu'il y a un antagonisme jugé trop fort entre supporters du PSG et de l'OM. Je rappelle que le dernier match entre Paris et Marseille avec des supporters marseillais au Parc, c'était le 28 février 2018. 400 supporters de l'OM avaient fait le déplacement. Ils avaient arraché les sanitaires et jeté des sièges en fin de match. Ça s'était mal passé. Depuis, il n'y a pas eu de supporters marseillais au Parc ou de supporters parisiens au Vélodrome. Les associations de supporters précisent qu'il n'y a aucun dialogue à l'heure actuelle avec les autorités. Les groupes de supporters militent pour le retour des supporters marseillais au Parc. C'est le cas notamment du collectif Ultra Paris. Et puis surtout, ce qui a fait réagir la direction marseillaise, c'est cette autre interdiction de déplacement pour les supporters de l'OM ce samedi face au Paris FC à Jean-Bouin. Donc c'est à 50 mètres du Parc des Princes. Décision dénoncée donc par l'OM dans un communiqué. Ouvrons donc le procès de la préfecture de police de Paris qui a interdit la venue des supporters de l'OM. Deux procureurs, Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et Younes Belanda, bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat de la préfecture ce soir, c'est Jean-Michel Larquet. Bonsoir.
Oh bah. Bonsoir. Non, l'avocat du football, pardon.
Commis d'office. Commis d'office, Jean-Michel Larquet. Et le juge, ce sera Gabriel, qui est officier de police judiciaire et qui est supporter parisien avec nous au 32-16. Salut Gabriel.
Je t'adore, Gab.
Magnifique. Ah. Tu es l'interlocuteur parfait pour trancher dans ce procès.
On va essayer.
Vas-y, Jérôme, alors, quel est ton point de vue sur cette histoire?
En fait, tu viens de le dire, il s'est passé des choses depuis pas mal d'années. Avant que on ait des interdictions permanentes tous les ans pour que les supporters de l'Olympique de Marseille viennent ici au Parc des Princes ou à Paris, parce que là en l'occurrence c'est à Jean-Bouin qui sont interdits, et les supporters parisiens ne viennent plus au stade Vélodrome. Donc ça fait maintenant, c'est la 8e année. Donc moi je veux bien entendre qu'au départ c'est très chaud, parce que la dernière fois, et tu l'as dit, les faits, il y a eu beaucoup de bagarres, des soucis même dans la ville. Donc ça, je peux comprendre que les autorités, elles aient autre chose à faire que de gérer des supporters hystériques qui sont là juste pour casser et pas encourager leur équipe. Mais 8 ans, ça commence à dater quand même, tu vois. Alors je veux bien que les premières années, on interdise et qu'il y ait une prise de conscience. J'imagine quand même que dans les groupes de supporters, même s'il n'y a pas que des gens bien intentionnés, il y a quand même les garants de la bonne ambiance, si tu veux, les capots ou ceux qui dirigent les groupes de supporters ont pris conscience aujourd'hui que il y avait un réel problème
d'ambiance, d'engouement, tout ça.
Non, et que ça dépassait les bornes tout simplement. Donc il y a une prise de conscience parce qu'ils en parlent beaucoup. Je pense honnêtement que les préfectures de police seraient bien, ça serait bien qu'ils fassent le premier pas aussi et qu'ils acceptent d'échanger avec les groupes de supporters pour se rendre compte aussi de l'amélioration dans leur groupe de supporters. Moi, j'ai pas l'impression, pour parler du Parc des Princes, moi je viens à chaque fois, ça se passe bien. Ça se passe bien, le collectif Ultra Paris, il y a pas de débordement. Alors oui, il y a des fumigènes de temps en temps et le club est sanctionné, mais comme à Marseille, ça a été le cas sur le dernier match où contre Lens, la tribune nord, je sais pas dans quel sens c'est, mais elle était fermée. Donc il y a pas de souci, mais c'est juste pour des fumigènes, c'est pas pour autre chose. Après, en effet, donc une fois que tu as dit ça, sur les premières années, les interdictions sont logiques. Mais ça fait 8 ans, ils demandent que ça. Et moi, je pense que les autorités et la préfecture de police devraient en effet échanger un peu plus, que ça soit avec les groupes de supporters, que ça soit avec les acteurs, pour se rendre compte en effet que on fait, c'est le sport numéro 1. Ça fait beaucoup parler. Et on a quand même, le football représente beaucoup pour notre société ici en France. Donc pas qu'en France, dans tous les cas. Et ben pour améliorer les choses, rencontrer aussi les acteurs. Et vous verrez que les joueurs, ils attendent aussi que ça, de pouvoir communier. Moi, pourquoi ça me fait quelque chose quand les équipes adverses.
T'as connu les deux cas de figure, toi?
Oui, parce que je l'ai connu. Et c'est vrai qu'il y a des climats hostiles. Alors, le climat hostile, c'est quand Marseille vient au Parc des Princes, bien sûr que les joueurs, ils se font un peu massacrer dans tous les sens, dans les champs, dans les comportements. C'est très hostile. Il faut être costaud pour sur le terrain, tirer le max. Mais franchement, quand t'arrives à prendre le dessus sur ce climat hostile et t'arrives à faire une bonne performance collective, parce que c'est ça le charme du football, c'est qu'ensemble on arrive à renverser une équipe qui est poussée par 50 000 personnes comme ça sera le cas au Parc des Princes. Putain, quand t'as...
Jérôme, je rebondis sur toi et comme les joueurs quand ils sont à l'extérieur et qu'il y a leurs supporters, ils sont motivés aussi.
Mais oui, tu vois, mais c'est pour
Marseille,
ça.
Et ils vont au parc avec leurs supporters.
Eh oui, ça les galvanise.
Tu pars pas tout seul, tu vois.
Et c'est pour ça. Et franchement, Younes, et je vais te laisser la parole, mais là-dessus, mais je finis là-dessus. C'est que une fois que t'as réalisé une bonne perf, t'es l'Olympique de Marseille. Putain, mais le charme du foot, c'est de communier ça aussi avec tes supporters. Ils sont là, ils représentent, ils sont peut-être 400, 500, 600, 1000, je sais pas combien ils peuvent venir au Parc des Princes. Putain, tu communies ça, bien sûr que ça fait, il y aura du chambrage avec les supporters.
Pas que ça dépasse les limites, c'est toujours le problème.
Mais écoute,
tu peux l'encadrer, ça. Tu peux
l'encadrer. Tolérance zéro,
c'est tout. L'encadres. S'il y a des débordements, c'est fini à vie. C'est fini à vie. Mais si tu retentes pas, on y arrivera jamais, en fait.
Tu les encadres, en fait. Du départ à l'arrivée au stade, au retour, tu peux les encadrer. Tu peux même mettre un système de fichage. Je pense que maintenant, dans les stades, avec toutes les caméras qu'il y a, tu sais qui est qui, tu sais les supporters qu'il y a. Donc, tu peux ficher, tu peux sanctionner. Et tu vas pas m'expliquer qu'en Ligue des Champions, quand le PSG reçoit les hooligans d'Angleterre, d'Hollande, qui viennent, c'est pas plus dangereux que les Marseillais.
Ah bah si, c'est
donc
plus dangereux.
Ça, moi, je le comprends pas. Bah, alors, comment il interdit
pas? Et les Turcs aussi.
Et les Turcs aussi. Donc, tu vois, c'est plus compliqué, je pense, que des supporters qui viennent de l'étranger, que nos propres supporters en France, quand même. Tu peux quand même bien t'organiser et organiser un voyage. Moi, ça, je le comprends pas.
Alors, parlons de la défense. L'avocat commis d'office, monsieur Larquet.
Non, je suis pas commis d'office, mais j'ai écouté dans les remèdes, j'en ai pas entendu beaucoup, des remèdes. On peut encadrer, sauf que ça n'a jamais été fait. Alors, je vous rassure, à la fin, je pense qu'on va se retrouver. Peut-être que le constat sera à peu près le même, Jérôme et Younes. Peut-être. Mais si tu veux, à un moment donné, quand je vois des tribunes vides, des gradins vides, parfois des terrains suspendus, c'est pas tout à fait le fait du hasard, Jérôme. Je pense qu'il s'est passé quelque chose.
J'ai dit les fumigènes.
Je pense qu'il s'est passé quelque chose dans... Et pas forcément que des fumigènes.
Ah bon, c'est quoi alors? Fumigènes.
Il y a eu peut-être des envahissements de terrain, peut-être, Jérôme, j'en sais rien.
Pas au Parc des Princes, pas à Marseille, j'ai pas vu.
Je te parle d'une manière générale. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose. Donc, il y a peut-être parfois à balayer devant sa propre porte. Mais de l'autre côté, quand j'entends, il y a qu'un faucon. Mais la préfecture de police a pris une bonne décision parce que pour une fois, parce que ça se répète, mais elle est devenue à peu près lucide. Parce que malheureusement, et je regrette que je vais être peut-être un peu brutal envers Gabriel et ses hommes, mais depuis des années et des années, en dehors du stade, dans le stade, ils n'ont pas à faire la police, en dehors du stade, partout où ça s'est passé, l'État français et sa police ont été incapables de faire régner l'ordre et que les choses se passent à peu près normalement.
Ça fait 8 ans qu'ils viennent plus. Comment tu peux te rendre compte?
Ça fait huit ans. Donc aujourd'hui, ils ont un soupçon de lucidité. Je parle pas d'incompétence.
C'est la facilité plutôt.
Ils ont un soupçon de lucidité. Je parle pas d'incompétence. J'irai pas jusque là parce que je ne veux pas heurter Gabriel.
Et tu veux pas perdre le procès?
Mais ils sont simplement, ils savent très bien qu'ils sont incapables, s'il y a un mouvement de foule. Ils sont incapables aujourd'hui, avec 500 ou 1000 supporters, de rétablir l'ordre dans des proportions normales.
Bah, moi, je
donc,
pense pas.
Au lieu de, donc, je les défends parce qu'au moins, il y a le principe de précaution. Bon. Là, c'est le principe de réalité.
Bah, précaution, moins, à Jean-Bouin, il risquait quoi alors?
Des affrontements avec des supporters parisiens qui seraient venus à la rencontre des supporters marseillais. Non, mais ça, c'est.
Bien sûr.
Si tu le fais pour le PSG, tu le fais pour le PSG.
Jérôme, tu sais très bien que c'était sur le parking, ex-parking Guilbeau, que c'était un parfait ring de boxe.
Oui, je suis derrière le parquet principal.
Mais maintenant.
Tiens, Gabriel, rends ton verdict.
Moi, je dis que.
Ce que j'entends de la part de Jean-Michel Larquet sur. La police, là, ça, franchement. Ça
non, mais essaye pas de soudoyer le juge. Oh.
Ah ouais, c'est vrai.
Non, vas-y, Gabriel.
Je suis avec toi,
Jean-Michel. Oui. Moi, je suis avec vous.
Alors, je vous embrasse. Je vais essayer de. On va essayer de synthétiser les propos des uns et des autres. Donc, on a d'un côté Younes et Jérôme qui militent pour un retour des supporters, ou en tout cas qu'on réessaye, afin de voir si effectivement les choses se passent à peu près bien. C'est un peu mon idée aussi, hein, parce que je suis supporter parisien et je trouve dommage, quelles que soient d'ailleurs les entités, hein, que les supporters soient interdits de déplacement. Bon, pour moi, c'est quelque chose qui m'apparaît un peu démesuré au regard des faits récents, puisqu'il n'y a pas eu de... en tout cas en France, que ce soit les supporters marseillais ou parisiens dans leur déplacement. Non, mais si, parce que alors il n'y a pas de déplacement parisien à Marseille ou de déplacement marseillais à Paris, mais tu as des déplacements des équipes ailleurs et il n'y a pas de problème. Je veux dire, le club se déplace quasiment toute l'année dans énormément de stades.
Le stade brestois, les ultras devaient passer devant la justice. Là.
Ah oui, mais attention, il y a eu de graves incidents avec les ultras brestois, il y a eu des bagarres, etc.
Moi, je veux bien qu'il ne se passe rien ailleurs.
Mais on parle de Paris et de Marseille, là.
Il n'y a pas de problème.
Après, malheureusement, et je pense que c'est la réaction de la préfecture de police, hein, qui est motivée comme ça, c'est que malheureusement, comme là, vous venez de l'aborder pour le stade brestois, il y a toujours le risque. Et la préfecture de police ne prendra pas le risque d'exposer, on va dire, les tierces personnes qui sont autour à des risques de bagarres violentes. Pas qu'on pourrait ne pas les juguler, hein, contrairement à ce que dit Jean-Michel, hein, c'est juste une question de mettre les hommes qu'il faut et bien prévoir le truc. Sauf que au regard du bénéfice-risque, ça va être de toute façon un déplacement limité de supporters, donc en gros 400, peut-être 600 supporters marseillais. Mmh. Et en gros, on va devoir mobiliser sur tout le trajet entre Marseille et Paris. Il va falloir mobiliser quasiment le quadruple de fonctionnaires pour ça. Je suis pas sûr que effectivement le jeu en vaut à la chandelle et effectivement le moyen le plus simple de contrôler, c'est d'interdire.
Bon. Voilà. Et tu donnes la victoire à qui, Gabriel, alors?
Avec ce qu'il vous a mis à la police, Jean-Michel.
Non, c'est pas trop. Non, mais bon, ça, je veux mettre ça sur le.
Il a dit que vous étiez incompétent.
Oui, mais.
Il ne parle pas
des hommes sur le terrain, hein, au niveau de l'incompétence. Il parle de ceux qui sont au-dessus des preneurs.
Il aura une convocation judiciaire.
Franchement.
Mais non, pour moi, Younes et Jérôme, parce que je considère que oui, au bout de 8 ans, on doit laisser les supporters se déplacer et on doit réessayer. Et effectivement, aborder ce dialogue me semble quelque chose de sain et qui irait dans le bon sens.
Merci Gabriel.
Merci Gabriel.
Bon courage à toi.
Et on en profite pour embrasser tous les policiers de France. Pas facile.
Merci pour eux.
Merci Gabriel. À bientôt sur RMC.
Surtout ceux sur la route. Hein,
Incroyable.
Et la BAC du 92, je vous embrasse. Ouais, et du 78 aussi. Ils nous écoutent tous les jours, la BAC du 78.
De aussi,
je vous embrasse.
Allez, dans un instant, dans Rotten sans flamme. Allô Jérôme, Daniel Riolo avec nous pour nous expliquer que la Super League peut sauver le football. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h49 sur RMC, les 10 dernières minutes de Rotten sans flamme avec le Allô Jérôme qui va arriver dans un instant, après 19h. On est de retour aussi avec Younes Belhanda, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron. Benoît, au programme.
Est-ce que le LOSC doit changer pour se relever? Est-ce qu'on peut continuer avec Bruno Genesio ou est-ce qu'il faut changer d'entraîneur? 32-16, supporter lillois pour participer.
Il joue gros jeudi. Hein.
Avec nous. Mais tout de suite, c'est donc le Allô Jérôme.
RMC, Roten sans flamme.
Quand tu réponds à Jérôme, cet argument qui est absolument... Mais c'est le pire des arguments de la Terre, l'argument des goûts et des couleurs. Non, c'est pas les goûts et les couleurs. Parce que sinon, ça veut dire que les goûts et les couleurs... Mais non, c'est pas un argument. Sinon, ça veut dire que tu peux préférer... J'en sais rien, mais tu peux préférer la carrière de Gourcuff à celle de Zidane. Parce que le goût et les couleurs... Non, c'est tes goûts de shot et tes couleurs de merde.
Allô, Jérôme.
Daniel Riolo est donc avec nous dans Roten sans flamme ce soir dans le Allô, Jérôme. Salut, Daniel.
Salut, Daniel.
Salut. Salut les amis, ça va ?
Bah ça va, super. Merci d'être là. On va te récupérer en régie, Daniel. On a un petit décalage. Je vais juste replanter le décor. Le sujet pour lequel tu interviens donc dans Roten sans flamme. Hier soir, débat Jérôme, Younes et Jean-Michel autour de la Ligue des Champions et de cette nouvelle version, donc cette poule unique à 36 clubs. Seules 7-8 équipes qui peuvent espérer la gagner. C'était l'avis de Daniel. Les plus gros budgets. Donc à partir des quarts de finale, il n'y a plus de suspense. Et pour Daniel, en gros, les trois quarts des clubs sont là. Pour toucher le chèque de la Ligue des Champions, aller espérer aller en barrage et ensuite se qualifier pour l'édition suivante grâce au championnat national. Daniel, c'est de là-dessus, c'est sur ce sujet que tu voulais intervenir et pour lequel on t'appelle ce soir.
Écoute, Benoît, Jérôme, je crois qu'il y a Younes et Jean-Michel.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
Les quatre, ouais. En fait, moi, ça fait des années qu'on parle de ce sujet-là et qu'on me dit, je veux surtout pas rentrer dans l'eau.
Ah, on va te retrouver, Daniel, dans un instant.
Ça marche bien, hein.
Ouais, on va retrouver Daniel qui reçoit des appels en même temps. Ouais, c'est trop d'émotion d'arriver dans Roten sans flamme, je pense.
il était attendu, hein, la Super League.
Non, mais c'est un vrai débat. On a déjà fait le débat du format, nous, la semaine dernière. Non,
moi, de toute façon, alors j'attends.
On y est déjà un peu, hein, les gars.
C'est ça.
Bah, c'est le débat. Oui, mais
petit à petit, notre ami Infantino. Lâche du lest, la Ligue des Champions, le nouveau format de la Ligue des Champions ne se cache pas. C'est un peu une Super League déguisée jusqu'au 8e, jusqu'au 8e.
De toute façon, c'est pour ça qu'ils l'ont. C'est pour ça qu'ils ont changé la formule. Pour combattre la Super League. Exactement. Qui était annoncée.
Ouais, Daniel, ça y est.
Pardon. Excusez-moi, il y a eu un problème. Oui, je disais à contre-cœur. Moi, je suis un peu résigné à cette idée. J'ai entendu un débat aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en avez parlé de ce qu'a dit De Zerbi sur le match historique demain soir. Mmh. Bon, ok. On va débattre. C'est historique, c'est pas historique et tout. Mais en fait, aujourd'hui, un club comme l'OM, qui est notre deuxième plus gros club dans notre championnat, le club phare, on le sait tous à quel point il est important dans l'histoire de notre football. Mais de quelle façon, ce club aujourd'hui peut marquer l'histoire? Il ne peut plus être champion. Ou quasi pas, on va dire, on est à 80 ans, même pas, 90-10. Il faut que le PSG y ait hécatombe et tout. Et aujourd'hui, avec les moyens qui sont les siens, puisqu'il y a un ticket d'entrée pour être dans le top 8 européen, qui est un certain budget. Alors évidemment, à chaque fois, on me sort l'argument de la surprise qui arrive une fois tous les 10 ans, d'une petite équipe qui traverse un peu, qui fait un truc. Ça, c'est l'argument massue. À chaque fois, je le prends sur la tronche. Mais pour moi, l'argument exception n'est pas un argument. Donc, je reprends sur l'OM. L'OM aujourd'hui, quand on dit ils peuvent sortir de la poule demain, je suis désolé de dire que quand tu l'as pas fait depuis 10 ans, quelque part, c'est pas un exploit, je veux pas exagérer, mais c'est déjà hors de la normalité. Pour l'OM, on est d'accord. Ouais. Et si on va plus loin, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire, l'OM? Quel peut être l'espoir véritable d'un OM avec son budget, à part de dire ce que dit Pablo Longoria, ce que dit également Mehdi Benatia, nous, priorité championnat, parce que qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on revienne. Donc si jamais on sort de la poule, et puis de toute façon après, qu'est-ce qu'on va faire? On va se plier en quatre, mais on perdra, si c'est pas en huitième, on perdra en quart, parce qu'il y a des équipes qui sont beaucoup trop fortes, et peut-être qu'on va même laisser des forces, et qu'on reviendra pas en Ligue des Champions, parce qu'on aura usé de force, et dans le championnat, on va se faire doubler, et ce sera la catastrophe financière, et le club va s'écrouler. Et en fait, la plupart des clubs en Europe aujourd'hui ne sont là que pour éviter la catastrophe financière. L'objectif, c'est éviter la catastrophe financière en visant la Ligue des Champions, en y allant pour prendre le chèque et en espérant rien du tout. Parce qu'au fond, la vérité entre nous, à part de se taper la honte s'ils ne sortent pas de la poule, l'OM, à part la honte, qu'est-ce qu'ils risquent? De toute façon, le 16e, là, le play-off, c'est comme un 16e, ou le 8e,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'accrocher dans leur salon, dans la salle des trophées. J'ai fait play-off ou j'ai fait huitième. On sait très bien qu'ils iront pas plus loin.
Après, tu peux
rêver.
Vas-y, Jean-Michel.
Daniel, je pense que le dirigeant, parce qu'il y en a qu'un, hein, c'est Infantino. Le dirigeant pense comme toi. Hein. Il ménage la chèvre et le chou sur le plan sportif.
Ouais.
Il fait à minima, mais il le fait quand même. Il y a quand même une petite direction qu'il prend vers la Super League au travers du championnat du monde des clubs, au travers...
Mais bien sûr
Et de l'autre côté, il ménage son élection.
Mais Jean-Michel, Jean-Michel, excuse-moi de te couper, tu sais quand même pourquoi ce mondial des clubs a été créé. Parce qu'il fallait de nouvelles rentrées financières et surtout il fallait contrer ceux qui forcent à mort l'organisation.
C'est bien ce que je te dis.
Se bouge de temps dans tous les sens pour créer des rencontres de gala. Parce qu'un club comme le PSG aujourd'hui, il a besoin de rencontres de gala pour faire rentrer de l'oseille, pour la notoriété, développer le business dans le monde. C'est pas la Ligue 1, c'est pas sur la Ligue 1 qu'ils vont faire du business.
On est raccord là-dessus et parallèlement, comme je te disais, il ménage ses électeurs en faisant une Coupe du Monde bientôt à 78 clubs, je sais pas, à 78 nations.
C'est le
problème de l'équilibre, mais incontestablement, il est secoué.
Mais il y a quand même l'aspect du rêve du supporter, Daniel.
Ça, tu peux l'entendre. Qui dirige le foot plutôt qu'une nouvelle organisation. Mais moi, j'en ai rien à foutre, moi, aujourd'hui. Seferi, c'est pas un maître de vertu et Infantino encore moins. Donc, que ce soit eux qui aient le pouvoir ou que ce soit d'autres gens qui créent une nouvelle compétition. Aujourd'hui,
mais Daniel, tu peux pas empêcher les supporters marseillais de rêver. Les supporters, ils peuvent rêver avec un huitième de finale de Ligue des Champions face à un grand club.
Ils vont rêver quoi, Benoît? Arrêtons. Les supporters, ils sont pas débiles. Et quand bien même, ils font l'exploit en huitième parce qu'ils ont un bon tirage. Où est-ce que tu veux qu'ils aillent?
Mais c'est déjà magnifique, tu te rends compte pour les supporters
dans une
c'est magnifique, mais quel mépris de dire c'est magnifique.
Est-ce que ça serait une épopée, Daniel, s'ils étaient en 8e ou en quart?
Quand même, quart de finale Ligue des Champions pour les supporters.
Génial, alors c'est l'épopée, ça va être fantastique. Ils vont faire des t-shirts et des ballons. Ils vont faire des ballons, 8e de finale.
Non, mais quand t'es à Marseille, tu peux pas banaliser un quart de finale de Ligue des Champions, c'est pas possible.
Non, mais Benoît.
Oui.
Bah si, justement, parce que l'OM a une histoire, ils peuvent banaliser et ils vont pas faire un défilé sur la Canebière parce qu'ils ont fait un quart de finale de Ligue des Champions.
Daniel, là où t'as.
Après Jean-Michel, on arrive. Vas-y.
Non, mais Daniel, là où t'as raison, c'est vrai que la vérité, c'est que. Mais c'est pas lié qu'aux dernières années. La Ligue des Champions est réservée aux grandes équipes. Tu vois, depuis X années, tu regardes le palmarès, que ça soit en quart de finale.
C'est un groupe de 8, on va dire.
Exactement.
Un groupe de 8, c'est ça, à peu près.
Ça, on sait.
T'as pas vu l'évolution où il n'y avait pas de tête de série et où il y avait des matchs couperés à partir des 32e de finale. T'as pas connu ça, Jérôme? L'évolution, elle est claire, concernant les supporters, tu sais, la ligue fermée qu'est la NBA.
Oui.
Les salles de NBA. Allez. Il y a des supporters, il y en a tellement que pour avoir un billet, pour aller voir un match NBA, c'est impossible.
Non, mais fais pas des comparaisons comme ça. C'est une ligue fermée, ça n'a aucun intérêt. Non, c'est autre chose, c'est un spectacle.
Ah,
c'est incomparable.
Moi, je veux qu'on accepte, on tira les nouvelles pour la ligue, sans intérêt.
Jérôme.
Non, mais moi que ça devienne genre une ligue fermée, que ça a été fait pour ça, si tu veux, pour combattre les envies de certains clubs de faire une ligue vraiment fermée comme la NBA, c'était ça. En effet, ils ont essayé de changer la formule. Elle est ce qu'elle est. La vérité, c'est que, en effet, là où je rejoins Daniel, c'est que les équipes, et on le voit au niveau, juste pour confirmer le niveau. Quand moi je parle de niveau de Ligue des Champions et niveau Europa League, il y a des équipes qui sont qualifiées, qui vont se qualifier pour les barrages, les 16e de finale, qui sont du niveau Europa League, qui sont pas du niveau premium.
Donc la vérité,
c'est que c'est pour leur faire plaisir en effet, mais ils savent très bien qu'en 16e et en 8e, ils existent plus. Hmm. Et ça, c'est la réalité, c'est comme ça.
C'est le foot qui est comme ça, excusez-moi. Qu'est-ce que ça changerait à la Super League?
En fait, 80 ou 90% des équipes.
Ce qui changerait, Benoît, c'est que dans le foot, puisque vous avez créé ce foot,
puisque vous avez autorisé, parce que Benoît, moi si tu me dis demain qu'à l'UEFA ils se réunissent et ils disent bon alors on va empêcher les clubs d'avoir 30 mecs sous contrat, de ramasser tous les prospects en Europe, d'accaparer la plupart de toutes les richesses et tout, et que on fait, on permet aux autres clubs de vivre également, pas de problème, on garde cette formule. Mais à partir du moment où, je sais pas, moi on me dit, je sais pas quels sont les véritables objectifs d'un club comme Rennes qui est quand même détenu par un milliardaire, mais quand tu vois qu'au mois de janvier, t'as déjà Chelsea qui est là comme un vautour et qui dit je vais aller chercher tel joueur, je vais aller chercher ça. Mais en fait, ils vont faire quoi Rennes en fait dans leur histoire? Ils vont faire, ça va être quoi le truc? Alors je te parle de Rennes, mais la réflexion elle vaut pour l'OM. Soit tu construis un budget à 500 millions et là t'as le ticket pour viser éventuellement une fois tous les 5 ans un quart de finale. Mais sinon c'est mort. C'est mort aujourd'hui. Les joueurs à 18 ans. Mais regardez ce qui se passe avec le gars là, le gamin du Barça là, drôle là. Le PSG ça y est, ils l'ont pris à 18 ans. Chelsea ils prennent des gamins à 16, 17. On les laisse même plus se développer dans leur club comme avant. Donc, on est en train de faire des clubs qui sont complètement pauvres, à qui on fait miroiter des choses. On nage dans une hypocrisie qui est monumentale, parce que quelque part, le PSG en 2021, ils étaient sur un projet comme ça, parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Le PSG, la Ligue 1, ils n'en ont plus rien à cirer. Eux, ce qu'ils veulent pour développer le business, c'est Ligue des Champions. Donc, il y a 8 matchs plus ceux de la phase finale. Hop, tu rajoutes un Mondial des clubs tous les 2 ans. Tu rajoutes un Trophée des Champions dans le golf. Ça rapporte un peu d'oseille. Tu me rajoutes un Championnat du Monde des clubs par-ci,
c'est clair.
Bon, t'arrives à faire 20 rencontres de gala. Après, on fait croire que un PSGOM, ça vaut encore beaucoup, machin, un truc comme ça. On te raconte 3-4 conneries marketing et on emballe le tout et on vend ça au gogo. Mais à un moment, il faut arrêter. Il faut ouvrir les yeux. Il faut juste ouvrir les yeux. Donc moi, par résignation, je le répète, je ne veux pas être un promoteur d'un truc qui n'est pas dans ma culture du foot. D'abord, pas de ligue fermée, surtout pas. Mais après, j'ai envie de leur dire, hey, les gars, vous savez quoi, là, les gros, là, allez vous taper ensemble. Faites un truc à 16 équipes ou à 18, avec un play-off, un machin, avec une porte d'entrée pour des équipes qui auraient bien travaillé. Mais par exemple, Lens, pas de problème. L'année prochaine, tu y vas dans l'élite. Tu fais podium, pas de problème. Elle est pas fermée, ma ligue. T'as le droit d'y aller. Vas-y, Ougourian, prends l'oseille qu'il y aura dans cette compétition. Et vois si l'année d'après, t'es capable de revenir. Ok, super.
Bon, Daniel.
Moi, je fais une ligue ouverte. Ouais. Mais je fais un championnat à 18 et j'arrête avec cette phase à 34 où honnêtement, c'est 34 équipes là, c'est complètement bidon.
Bon, merci d'être venu. On te retrouve dans l'after ce soir dès 22h.
Merci Daniel.
Allez.
Merci à vous de m'inviter. À bientôt. Je vous embrasse. Ciao.
Demain, on fera le débat, nous, demain, sur le rendez-vous historique pour l'OM face à Bruges. C'est vrai que c'est un excellent débat.
C'est un rendez-vous historique.
Ça va être un très bon débat.
C'est le derby qui l'a dit.
Allez, on revient dans un instant. On parle du LOSC et de l'avenir de la direction.
Tout ce qui se passe est historique.
Exactement.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme. Jérôme Roten.
19h06 sur RMC. On est là, on est bien dans Roten sans flamme. La deuxième heure avec Benoît Boutron, avec Jean-Michel Larquet et avec Younes Belhanda. On va passer une bonne deuxième heure. On va se régaler. On remercie encore Daniel Riolo. Eh oui, qui nous a mis un petit peu en retard, mais c'est intéressant son avis. En tout cas, je vous conseille de réécouter la première heure en podcast. Elle est déjà disponible. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Roten sans flamme et surtout restez avec nous. On est là jusqu'à 20h.
Avec le quiz à 19h45. Magnifique cadeau, hein. Vous remportez le maillot du PSG, le maillot blanc, signé et authentifié par Joao Neves, la signature de Joao Neves grâce à notre partenaire authentiquesignature.com. Pour vous inscrire, 32-16 ou quiz par SMS au 7-32-16. À 19h30, supporters lensois, on vous attend au 32-16. Est-ce que Lens a montré ses limites samedi soir à Marseille? Mais tout de suite, malgré la crise, on ne change rien pour le moment à Lille.
Cette semaine, avec mon équipe de choc, nous nous rendons chez Jean-Sébastien, Sandy et leurs 3 enfants.
Je vais être clair, ceux qui ont envie de jouer pour le LOSC, il faut qu'ils le disent clairement. S'il y en a qui n'ont pas envie ou pas suffisamment envie, il faut aussi qu'ils le disent.
Nous avons une semaine pour isoler et plaquer les combles.
Quand il vous manque autant de choses individuellement et collectivement, vous pouvez prétendre à rien. Je pense qu'aujourd'hui, on a touché le fond en termes de contenu.
Une semaine pour abattre les murs et agrandir les pièces.
Les personnes avec qui il ne s'entend plus, on doit peut-être aussi chercher du côté des gens en costume.
Une semaine pour créer un nouvel espace de vie familiale.
Quand il y a eu la désignation de l'arbitre, pour tout vous dire, quand j'ai vu qu'il était suisse-allemand, j'ai trouvé ça assez particulier.
Une semaine pour permettre à cette famille de vivre normalement.
Je ressens une petite différence dans l'esprit de ce groupe. Oui. Et ça me taquine.
Mais Bruno, tu fais partie des chouineurs. Il est là le problème.
Donc ce début d'année cauchemar pour
le chouineur.
5 matchs officiels, 5 défaites, 3 en Ligue 1, la dernière 4-1 contre Strasbourg dimanche dernier. Rappelons l'info RMC Sport. Elle est sortie vendredi dans Roten sans flamme. Bruno Genesio qui a proposé sa démission après la défaite à Vigo en Ligue Europa, démission refusée. Démenti du club et du coach qui assure qu'il sera là jeudi face à Fribourg. Mais rassurez-vous, Fabrice Hawkins est avec nous dans ce studio. Salut Fabrice.
Salut Fabrice. L'homme qui a retourné les Lille.
Alors, où en sont justement, Fabrice, les relations entre
tu confirmes,
Olivier Létang et Bruno Genesio?
Ah oui, bien sûr que je vais confirmer. En tout cas, après la défaite contre le Celta, tu en parlais à Benoît jeudi dernier. L'entraîneur de 59 ans, Bruno Genesio, et son président se sont montrés unis. Hein. Le LOSC a publié un communiqué de presse dont tu parlais à l'instant pour démentir les volontés de départ de Bruno Genesio. Je confirme les informations RMC Sport, effectivement, après cette rencontre. Eh bien, il a fait part à son président de son envie de partir et son président, donc Olivier Létang, lui, a dit qu'il fallait poursuivre jusqu'à la fin de la saison. Après la déconvenue face à Strasbourg, 4-1, les deux hommes se sont une nouvelle fois montrés soudés, expliquant qu'il n'était pas question pour Bruno Genesio de partir. En coulisses, en tout cas, la relation est plutôt froide hein, ces derniers mois. Le mercato est régulièrement un sujet de tension entre les deux hommes. Et Bruno Genesio n'est pas un fan de la méthode Olivier Létang qui veut tout contrôler.
Merci Fabrice. C'est Roten se chauffe ce soir sur RMC. Est-ce que le LOSC doit changer pour se relever? 32-16, un supporter lillois pour participer avec nous. Jérôme, tu le disais d'ailleurs vendredi, tu vois pas comment l'aventure peut continuer avec Bruno Genesio en tant qu'entraîneur de Lille.
Non, je vois pas comment ça peut continuer comme ça. Déjà, la série, elle est difficile. Mais en fait, c'est pas vraiment la série, parce que si tu regardes les Lillois, tu te dis, bah, ils sont totalement dans les clous de leur objectif. C'est un peu comme Marseille. Tu vas me dire, ils sont, au pied du mur en Coupe d'Europe, mais un bon résultat va les qualifier. Tu vois. En Ligue 1, en effet, aujourd'hui, ils sont un petit peu largués en retrait des équipes comme Marseille et comme Lyon.
Cinquième à 6 points du podium.
Vu la série. Mais ils sont à 6 points il reste, 15 matchs de championnat, 16 matchs de championnat, je sais plus à chaque fois sur mais il reste beaucoup de points à prendre, à peu près 45 points à prendre. Donc t'imagines que 6 points c'est pas grand chose. Et puis à côté de ça, t'as des blessures, il faut faire avec, il y a pas de souci, ça peut se comprendre. Et puis des fois tu peux être aussi en manque de réussite sur certains matchs, t'as du mal à redémarrer l'année, la série elle est, il faut qu'elle prenne fin. En effet, il faut pas que ça dure, il y a pas de souci, ça s'explique. Mais moi c'est dans la communication, et c'est pas que le premier match ou le deuxième match. C'est que la communication de Bruno Genesio, je ne la comprends pas. J'ai du mal. C'est que comme Francaise, quand je disais depuis le début de l'année, on a moins, casse-toi. C'est quoi? Barre-toi. C'est pas grave. Ce que tu transmets aux joueurs dans le vestiaire, j'espère que c'est pas le même discours que t'as devant nous à la presse. Mais c'est terrible. Ce que je veux dire, de dire oui, ah bah c'est la faute à un tel. Ah puis tel joueur il est blessé. Et puis lui il arrive pas à être au niveau. Et puis lui il a pas envie de jouer. Et puis après moi j'en peux plus. Je suis à court de solutions. J'ai vu mon président. Écoute, je vais laisser le choix. Si tu veux de continuer avec moi, s'il pense que c'est moi l'homme numéro un, si tu veux le premier responsable, bah qu'il en mette un autre. Et voilà. Et avec Genesio, j'ai l'impression que là, depuis des semaines, c'est ce qui se passe.
Depuis qu'il perd, la communication est plus difficile quand tu perds que quand tu gagnes, Jérôme.
Ben d'accord, mais bon, tu peux avoir
la palissade, c'est pas un scoop.
Mais d'accord, c'est plus compliqué. On est d'accord. Et surtout eux, les entraîneurs, ils sont là à faire. Quand tu joues à la Coupe d'Europe, ils font 4-5 conférences de presse par semaine. J'imagine que ça doit être compliqué. Mais mon Dieu. Oh, vous faites un métier fantastique. Fantastique. Bien sûr que tu joues ta tête à chaque fois. Surtout dans des clubs à fort objectif.
Fantastique, mais difficile.
Il est difficile, d'accord. Mais il est difficile. Il a 59 ans. Il a un peu de bouteille quand même, Genesio.
Il a connu
d'autres contrats. Dans 6 mois, il est en fin de contrat. Mais qu'est-ce qu'il a à perdre? Si tu manques d'énergie, si tu penses que tu es à court d'idées, que tes joueurs ne répondent plus, parce que c'est ce qui se passe. Eh ben écoute, c'est quoi? Ta démission, tu la proposes, mais tu le prends. Et on en a parlé vendredi, Jean-Michel, tous les deux déjà. Toi, tu m'as dit oui, mais le règlement, le truc. Mais il y a personne qui peut t'obliger à rester en place. Ce que je veux dire, c'est que s'il est pas.
Jérôme, mais le coach et le président, s'ils sont pas sur la même longueur d'onde, déjà il y a problème.
Mais c'est le cas. Mais c'est le cas.
Si lui demande des joueurs et que l'État fait son recrutement et qu'il doit aligner les joueurs qu'il ramène, je te dis que moi, en tant que si j'étais à sa place, bien sûr que je bouderais et je serais pas content. Donc déjà le travail qu'il fait.
Mais c'est un élément de crispation, t'as raison.
À mon avis, bien sûr.
Le divorce, il est au-delà des résultats actuels. Il est depuis une vraie politique du club, et avec, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, mais je crois qu'il l'a dit et répété, c'est que l'Olivier Létang, il se mêle de tout. et que
c'est ça, le problème.
Je t'assure, ça doit être très 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 compliqué d'être l'entraîneur d'un tel président. Ça doit être insupportable, invivable. Et je comprends que entre des résultats décevants et une direction qui lui met des bâtons dans les roues.
Là, pourquoi il reste alors?
Ou qu'il y marque. Mais je vous l'ai dit, pourquoi il a proposé sa démission.
Ouais, Fabrice.
Oui, alors si on joue sur les mots, on va dire qu'il n'a pas proposé sa démission, mais qu'il a demandé à partir. Après, comment partir?
Ouais, ouais, c'est même, t'as raison.
Voilà, exactement.
Ouais,
ouais. Donc,
moi, on m'a dit qu'il avait. Moi,
il a demandé à partir.
Mais là, on joue sur les mots, c'est la même chose. Oui.
Non, pas
après là, il est dans une mauvaise spirale. Il a perdu 5 matchs. Il est cinquième au championnat. Mmh. Il est pas à la ramasse. Il est pas loin du podium. Moi, je pense qu'il lui manque 2-3 joueurs pour pallier un peu l'absence d'Yaman.
Il les aura pas.
Qui, quand il rentre, il fait la différence. Il te faut un joueur derrière Olivier Giroud qui est en soutien. On l'a vu, on l'a vu contre Strasbourg où il était un peu seul devant. Ah
ouais. C'est ce qu'il veut. C'est une des priorités.
Il manque un numéro 10. Voilà. Bien sûr. Mais ils sont pas très loin. Quand je vois l'effectif de Lille, je trouve qu'il a un très bon effectif. Il lui manque 2-3 joueurs.
Mais est-ce qu'on va lui apporter Fabrice d'ici la fin janvier?
C'est l'objectif. Je sais qu'Olivier est en travail sur un attaquant. Après, est-ce que l'attaquant va plaire à Bruno Genesio? Est-ce qu'il y a des échanges à ce niveau-là? C'est une autre question. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que il y a une feuille de route qui est dressée par Bruno Genesio. Elle n'est pas forcément respectée, en tout cas au niveau des noms, par Olivier Létang, qui a des impératifs aussi, des budgets à tenir. On peut le comprendre également. Hein, c'est pas lui faire ce procès-là. Mais généralement, et c'est pas que depuis ce mercato, c'était déjà le cas la saison passée. Ils sont pas d'accord. Et il y a des points de crispation lors du mercato.
Il y a des pistes pour les attaquants ?
On a entendu certains noms, Mathys Tel par exemple, c'est pas un secret. Maintenant, est-ce que Mathys Tel va être libéré par Tottenham? C'est une première question, je suis pas certain. Et si jamais il est libéré par Tottenham, parce que ça peut arriver, est-ce que ça l'intéresse le projet lillois? Il faudra se poser la question aussi.
Mmh. Jérôme, t'es rédhibitoire ou est-ce que tu penses que ça peut repartir une dynamique comme ça? Tu fais un bon résultat face à Fribourg, tu te qualifies en Ligue 1, tu réenchaînes quelques bons résultats?
Écoute, moi, je pense que le mal, il est profond, même s'ils ont des blessures, ils vont en récupérer. Mais le mal, il est profond parce que franchement, ce que j'ai vu contre Strasbourg, c'est pas possible. Il y a des attitudes. C'est pas des joueurs qui ont pris conscience, si tu veux, qu'il fallait faire plus, être soudé. Je pense que Bruno Genesio, il a essayé de mettre un truc en place qui a pas fonctionné. Alors, ça peut arriver sur un match, mais pas dans la confirmation, pas en prenant 4-0 au bout d'un moment à domicile. Ça, c'est sûr. C'est pas la faute à pas de chance. D'accord? Donc, c'est qu'il y a des attitudes qui ne changent pas. Il y a des performances de joueurs où il arrive pas à les faire progresser parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe aussi. Et puis à côté de ça, t'as les blessures qui où c'est problématique. Ils ont pas voulu recruter. Ouais. Moi, je crois pas vraiment.
Ils n'ont pas pu, Jérôme, parce que
oui.
On lui a tapé volontiers dessus parce que c'était un bon client, Olivier Létang. Mais je crois savoir qu'il a récupéré un club qui était dans un drôle
d'état. Oui.
En termes de gestion financière, il y a rien à lui reprocher.
Non, mais ça, il y a rien à lui reprocher. Après, on peut lui reprocher la relation avec Bruno Genesio, de vouloir un petit peu trop se mêler aux sportifs. Peut-être que lui a une vision différente de Bruno Genesio. Mais dans ces cas-là, ça fait partie des désaccords. Et c'est pour ça que Bruno Genesio, au bout d'un moment, il en a eu ras-le-bol. Il a posé sa démission. Mmh. Même s'ils te disent que non, la vérité, elle est là. Donc, une fois que tu baisses les armes comme ça, la démission, pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est pas juste un bout de papier où tu as une discussion dans un bruit de couloir en disant ou dans un couloir et tu dis à ton président « Oh, franchement, moi, je démissionne. »
Et une fois que tu l'as fait, c'est ça le problème, t'as raison.
Ça veut dire beaucoup.
Ben oui.
Moi, je pense que un entraîneur doit être entraînant. Il doit avoir l'énergie. Mmh. Après, peut-être que Bruno, pour X raisons, il a plus cette énergie-là, mais il faut prendre tes coronets et tu l'acceptes et tu laisses la place à quelqu'un. Parce que moi, je pense que cet effectif-là, en effet... C'est pas les Cadors, c'est pas la meilleure équipe de Ligue 1, on est d'accord. Mais elle est pas aussi mauvaise que sur les dernières performances contre Strasbourg. Ils ont pris une leçon à 4-0, c'est pas possible.
C'est
l'attitude
aussi.
Donc il faut les réveiller. Avec un entraîneur qui est démissionnaire, tu peux pas les réveiller. Donc pour moi le mal est profond. Mais moi je te dis, va chercher l'entraîneur de la réserve, Stéphane Pichot. Il a. Non mais attends, tu me regardes comme ça. Il a pas d'expérience. Je suis sûr que juste son discours et l'envie, il va faire beaucoup mieux que Bruno Genesio et son staff.
Ça, c'est impossible à dire, mais Jérôme.
À court terme, c'est ce qui...
savoir, Jérôme, à court terme, dans, c'est... dans le vestiaire ou ce qui se passe à l'entraînement.
À court terme, je pense que c'est psychologique. Et on est passé par là aussi.
Je pense que le mal, c'est avec son président. Parce que je pense que son groupe, je pense qu'il a un très bon groupe.
Il a de bons joueurs.
Là, il l'aime tellement qu'ils ont pris 4 contre Strasbourg.
Oui, mais ça arrive.
Ouais, il lui a manqué des joueurs d'expérience. Vendry n'était pas là, Bentaleb n'était pas là, Radson n'était pas là, Gaman n'était pas là. Ils ont des joueurs qui n'étaient pas là. Donc, ouais, je pense, moi, avec, eux, comme je disais tout à l'heure, avec 2-3 joueurs en plus. Ouais,
mais t'as qu'à y aller, toi.
Il leur manque un numéro 10. Eh ben, Younes, leur tirer en plus. Il leur manque un numéro 10.
Ans, joue au Qatar, pourquoi
Younes, vas-y. Franchement, tu ferais plus d'efforts que Olivier Giroud devant.
Younes, pourquoi
pas. Je le régalerai, ça, c'est sûr.
Là, pour le régaler, il va falloir prendre une télécommande parce qu'il bouge plus trop.
Accueillons Marvin, le supporter lillois au 32-16.
C'est reparti.
Salut Marvin.
Bonsoir à tous.
Salut. Bonsoir, bon, écoute, qu'est-ce que tu penses de
Marvin, tu vas voir, il a un avis tranché.
Qu'est-ce que tu penses de ton club et est-ce que tu penses que la solution c'est de conserver tout le monde là pour l'instant?
Alors déjà, on va parler de Genesio. Moi, Genesio, ça fait plus d'un an que je dis qu'on doit le jarter parce que depuis l'année début 2025, je l'avais dit déjà en trentaine, si on veut dormir, faut regarder un match de Lille. C'est un entraîneur pour moi c'est un entraîneur intérimaire. Genesio, ça marche que 5-6 mois, pas plus. On peut regarder notamment à Rennes, ça marche qu'un temps. Il n'a aucun fond de jeu. Ah si, son fond de jeu, c'est gardien, 6 latéral droit. Et après, on fait une passe à 10 autour de la surface. Ouais. Ah ben, après, je regarde tous les matchs de Lille. Il ne sait pas mettre en valeur les qualités de ses joueurs ou trouver un dispositif qui va correspondre aux joueurs qu'il a. Moi, je suis désolé, Genesio, on s'ennuie à mourir. Moi, son discours, je ne l'aime pas. C'est très compliqué. Le recrutement, on a recruté, hormis Romain Perrault, qui est vraiment c'est un bon joueur confirmé des gains, mais sinon on a recruté que des joueurs moyens, et plus que moyens, qui sont bons face au 17e, 16e, 15e de Ligue 1. On a recruté un gardien, je me demande encore quelle qualité on lui a trouvé, voire les deux.
Penalty.
Ouais, voilà, mais bon. Hein. Giroud, moi je trouve ça honteux, et même ce week-end. C'est honteux de l'avoir sorti parce qu'au vu du match, on savait qu'il allait siffler. Et je pousse même un coup de gueule sur ces pseudo-supporters qui, pour moi, à mon sens, ne comprennent pas le football. Lui, un mec de 40 balais qui fait des efforts, qui fait ce qu'il peut parce qu'il est esselé, alors qu'on sait que les caractéristiques de Giroud, c'est pas un joueur qui va faire des différences seul, qui a besoin d'être entouré. C'est juste honteux. Et c'est honteux de la part de Genesio de faire jouer un mec de 39 balais de tous les matchs.
Enfin, il n'a pas le choix, là, Marvin.
Il n'a pas le choix.
Mais moi, je vais vous dire ce qu'on peut faire, et je le dis, à un moment donné, il faut arrêter de jouer avec un seul attaquant, il faut libérer ses côtés, jouer avec deux attaquants et un numéro 10, et laisser les couloirs aux deux latéraux qu'on a qui sont très offensifs. Mettre un Pardo, même si c'est pas cadré, mais mettre très très proche de Giroud, ou Mbappé, un peu à l'image de Strasbourg, les seules occasions qu'on a, si on regarde bien, c'est Giroud. Hein. C'est Giroud, à un moment donné, qui fait la petite déviation pour Mbappé ou sur l'arrêt de Penders. Hein.
Mbappé sur le match de Strasbourg, franchement, c'est le seul qui a tenté
des
choses.
C'est le seul qui a été remuant.
Hein. Exactement.
C'est le seul qui a tenté. C'est le seul qui a été remuant. Un peu le bouillon sur le côté.
Il a du déchet. Oui. C'est vrai qu'il a du déchet dans la zone de finition, mais n'empêche qu'il s'est pas caché, tu vois. Il se passe des choses. Les autres, mon Dieu.
Olivier Giroud, il a besoin d'être alimenté. Que ce soit par le 10 ou par le côté.
Non, mais ça, on le sait.
Sur le côté droit, il a pas été alimenté parce que t'as Mbappé qui rentre, intérieur. Sur l'autre côté, t'avais Perrault, mais qui n'a pas été très à l'aise. Mais il a besoin d'être alimenté, d'avoir un soutien après, derrière lui, et avec l'âge aussi, il a besoin de ce soutien.
Comme le dit Marvin, je pense que si tu veux changer tactiquement quelque chose, tu sais, les entraîneurs, ils crèvent avec leurs idées. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un système qui est mis en place, et je vois pas Bruno Genesio transformer tout ça. Tu vois, déjà parce que pour changer de système, il faut de l'énergie. Et très honnêtement, quand tu vois les discours de Bruno Genesio, je pense que cette énergie-là, il l'a plus. Donc, pour réveiller un groupe, il faut ramener de la fraîcheur.
Ouais, mais là où je vous trouve dur, c'est qu'il a pas de solution, en fait. Moi, j'entends vos discours de il faut changer le système, le ci, le là, mais c'est là ce que nous propose Marvin, juste de rapprocher Fernandez Pardo de Giroud. T'as pas de joueur, en fait, à ta disposition. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut recruter, c'est tout.
Alors, d'accord. Donc,
c'est 2-3 joueurs.
Ça, on est d'accord. Mais
Giroud, t'es obligé de le faire jouer tous les 3 jours. Il veut pas jouer tous les 3 jours.
Moi, je veux bien ce discours, il faut recruter, il faut ceci, cela. Bruno Genesio, quand il a commencé l'année, moi c'est pour ça que des fois il y a des entraîneurs, je comprends pas. Il connaît la politique du club, il connaît ce que Olivier Létang veut mettre en place et surtout ne pas dépenser parce qu'il peut pas. D'accord? Donc parce que c'est pas son oseille aussi. Donc lui, il est obligé de gestionnaire. Quand tu vois l'état qu'il a repris le club il y a quelques années, ça, si on peut lui mettre en avant son bon travail, c'est que là il a remis à flot un peu tout le monde. Donc il a pas les finances pour recruter. Bruno Genesio, en début de l'année, il le sait. Même s'il y a des blessures, et ça, il le lot, malheureusement, d'une saison, c'est comme ça, tu dois
il
faire avec.
Il perd des joueurs, surtout, mais, hein, début de saison. Et il y a pas grand monde qui arrive et il perd des joueurs.
Oui, mais sauf que David, qui est le meilleur buteur depuis des années.
Oui, mais c'est prévu, les gars.
C'est dur à remplacer, que ce soit prévu.
Mais d'accord,
ou pas.
Mais alors, moi, dans ces cas-là, au début de l'année, tu sais, quand tu démarres l'année et que tout se passait bien, eh ben, plains-toi déjà.
Mais attends, qui dit qu'il attends, a pas fait, ça t'en sais rien, en mais fait.
Publiquement, plains-toi. Bon,
mais non, mais ça, après, on va lui reprocher.
Je crois, parce qu'il voulait un central, il a pris un mec à droite. Donc,
bah, d'accord. Déjà, bon, il était très content.
Non, mais Jérôme, tu le traites de chouineur quand il perd. Je veux bien. Mais il va pas chouiner quand il gagne, quand même, Jérôme.
Bah, écoute, des fois, c'est bien. C'est bien de se rendre compte que, en fait, tu gagnes, mais t'es pas content de l'effectif. C'est bien. Parce que là, aujourd'hui, vu que tu perds, en gros, en quelque sorte, c'est, ah bah ouais, mais vous savez quoi? Moi, j'ai un président. Il n'a pas envie de dépenser, ils n'ont pas envie de recruter, et moi j'ai des blessures, et moi je suis à court d'arguments. Et eh ben écoute, ouais, moi ça, j'ai du mal à l'entendre. C'est un peu comme Francaise. C'est comme Francaise l'année dernière. Francaise, il a passé son année, l'année dernière, à nous dire j'ai des blessures, et l'Europa League, bah, on est fini dernier, parce que ceci, parce que trop de blessures, tout ça, ils ne veulent pas recruter. Et cette année, il est resté parce qu'il croyait. Et puis en début d'année, il t'a dit ah ben ça, c'est plus les blessures, mais c'est les joueurs, ils veulent plus s'entraîner. Ah, puis les joueurs, ceci. Ah, puis moi, je suis lassé, je suis fatigué. Hein. Vous savez quoi? Ça fait 2 ans que j'entraîne au haut niveau. Franchement, je prends 400 000 balles par mois, mais je suis fatigué. Ah, moi, c'est trop de pression. Faites-moi un chèque. Et puis voilà. Et ben, en fait, Genesio, sur les 6 derniers mois, t'as l'impression que c'est ça. Et ben, prends ton chèque.
Respire. C'est plus de ton âge, l'apnée.
Pascal, c'est la plus de ton âge.
Mais prends ton chèque. Il y a plein d'entraîneurs qui vont pas coûter grand-chose.
Ah oui, Pichot.
Non, mais là, je dis Pichot parce que c'est solution interne. Pipiche, il a peut-être pas envie qu'il reste. Pipiche, je t'embrasse. Mais n'empêche que.
Merci à Marco.
Hier, on a fait Will Steele. Oui. Bon, même si c'est lui, il a pas envie. Mais il y a des entraîneurs comme ça qui demandent que ça d'entraîner des clubs. Bon,
c'est
vrai. On parle de Lille.
C'est vrai, Jérôme. Il y a des entraîneurs où tu lui aimes, où ils sont, il y a des joueurs qui sont imposés et qui disent rien. Moi, tu sais, j'ai eu le.
Il y a des joueurs qui veulent signer à Lille aussi.
À Nice, quand je suis arrivé à Nice, c'était Favre, l'entraîneur.
Ouais.
Ben, l'entraîneur, il s'occupait pas du recrutement. Donc, on lui ramenait les joueurs et il composait avec.
Ah, mais bon, ça marche rarement.
Il y a des entraîneurs qui sont comme ça. Mais il y a des entraîneurs, ils n'y arrivent pas.
Merci Marvin, merci à Fabrice Hawkins qui est venu avec toutes ces informations. D'ailleurs, Fabrice fait un excellent travail sur ce mercato hivernal. Donc, toutes les informations.
Il nous a foutu le bordel à Lille, là. Ça y est.
Et dans un instant, on va parler du voisin lensois.
On a qui maintenant?
Lens a montré ses limites samedi à Marseille. La défaite après 10 victoires.
Ah, c'est synthé bientôt. Il va dégager. Allez hop.
RMC jusqu'à 20h.
Sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h31 sur RMC, la dernière demi-heure d'un Rotten sans flamme enflammé. Et oui, on aime ça avec Younes Belhanda, avec Jean-Michel Larquet, avec Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h. On a encore un peu d'énergie. Donc,
le cardio est redescendu pour Jérôme.
On finira. Oh, bah oui, non, mais c'était très bien.
Exactement.
Très bien. Très, très bien. Dans 15 minutes, quand le quiz de Louis Gerbier. Hein?
Que tu reprennes l'entraînement, tu deviens vite rouge. Hein.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est devenu sélectionneur de l'équipe de France et qu'à ce rythme-là, ça va pas aller, quoi. La liste de Jérôme, sur les réseaux sociaux. Rotten sélectionneur, allez voir ça.
Non, mais moi, j'ai envie de réveiller Lille. C'est pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des internationaux. Hein.
C'est vrai.
Et la liste, moi, je regarde tous les matchs.
Il y a qui comme prospect français?
Pas beaucoup. Hein. Giroud, mais Olivier. Après Olivier, j'ai pas aimé ses déclarations, donc je suis pas sûr.
Ah si, il y a un joueur à convaincre. Désolé, Younes, mais c'est Boadi.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Là, on sait pas. Et...
Ouais, mais au milieu,
il y a du monde.
Il y a du maestro. Hein.
Il y a du monde. Ça, c'est sûr. Tous contre Rotten. Le cadeau est magnifique, supporters parisiens. C'est le maillot blanc du PSG signé et authentifié par Joao Neves. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est grâce à authentiquesignature.com. 32-16 ou quiz par SMS au 732-16. Mais il est 19h32 et Jérôme, l'arbitre vidéo, t'appelle.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Forcément, on sait très bien que c'est difficile de rivaliser sur la totalité d'une saison, surtout contre des écuries comme le PSG ou l'OM. Mais on est là, on a mérité notre place, on sort d'une série de 10 victoires d'affilée. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Les séries sont faites pour s'arrêter, c'est le cas ce soir. Mais le plus important, c'est ce qui va se passer le prochain match.
La VAR de Rotten sans flamme.
C'était l'analyse du capitaine lensois Adrien Thomasson après la défaite 3-1 à Marseille samedi. Défaite qui met fin à une série de 10 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Lens a eu du mal à exister au Vélodrome. Lens a vu le PSG prendre la tête du championnat avec 2 points d'avance. Et Lens ne compte plus que 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille qui est 3e. Est-ce que le Racing Club de Lens a montré ses limites samedi, 32-16, supporters lensois, pour participer avec nous? Je vous glisse juste une info RMC Sport, une info transfert, avec l'arrivée de Masuaku, latéral gauche, pour renforcer l'effectif lensois. Voilà, c'est un joueur qui va venir renforcer Lens d'ici les prochaines heures, voilà, pour la suite et la fin de cette saison. Jérôme, est-ce que Lens a montré ses limites?
Écoute, je sais pas. Moi, j'ai été déçu, en fait, du match, que tactiquement, Pierre Sage ne réagisse pas à ce qu'avait mis en place
De Zerbi.
Il a mis trop de temps. Il a réagi en deuxième mi-temps, mais c'était
chaos
fini.
Chaos d'entrée.
Mais en fait, le chaos, je vais te dire, Jean-Michel, ce que je pense, c'est qu'avant le match, les déclarations de Pierre Sage sur le fait qu'il est venu en Coupe d'Europe, voir l'atmosphère, vendre magnifique.
Il était là contre Liverpool,
le stade.
Mais après,
on est trop dur avec les entraîneurs étrangers. Non,
mais, alors après, si on peut plus dire ce qu'on pense. Voilà. D'accord.
Je ne voyais pas venir, mais bon, il l'a amené quand même.
Je l'ai amené parce que, en fait, ça n'empêche que le travail qu'il fait est remarquable. Ouais. Mais sur ce match-là, Il s'est planté. Il s'est planté dans sa com, il s'est planté dans son comportement. Pour moi, il est arrivé, c'est une bête blessée qui est arrivée, alors qu'il n'y avait pas du tout d'être bête blessée, d'arriver en la position du leader ou du deuxième, parce que le PSG était passé devant. Tu dois montrer plus de caractère. Mais à l'image de ces joueurs aussi, ce qu'ils ont dégagé, tu as l'impression qu'ils ont tout subi. Tout subi. Dès la première seconde, ils ont subi. Alors, en plus, ils en prennent 2 coup sur coup en bout de 10 minutes.
Mais c'est un problème 2-0. De limite footballistique ou c'est de l'état d'esprit? Non, c'est de la tactique.
Je pense que il y en a beaucoup qui ont fait leur match avant. Et ça peut arriver, tu sais, dans le stade Vélodrome, c'est quelque chose quand même. Tu sais, surtout dans le contexte Marseille où il fallait qu'il se rattrape de la claque reçue quelques jours avant contre Liverpool, que c'était une façon pour se relancer un peu dans le championnat à Marseille. C'était un match important, on en avait parlé au niveau des résultats et des objectifs du club. Donc, je trouve que Lens a pas répondu à ces attentes-là et surtout à ce que on leur proposait dans le défi physique, dans le côté on a de la personnalité quand on a le ballon, parce qu'il y a beaucoup de joueurs à Lens qui ont énormément de qualité. C'est pour ça qu'ils étaient premiers avant cette journée. Et puis à l'image aussi de Thauvin ou Flo, je suis désolé, mais sur ce match-là, t'as l'impression que c'était un jubilé. Il revenait à Marseille au stade Vélodrome, magnifique. Il a serré la main à tout le staff, à tout l'encadrement. Il tapait dans la main des supporters. Il cherchait l'ovation en fin de match pour sortir alors que tu perdais 3-0.
J'ai pas envie de déranger.
Et Pierre Sage à la fin, moi ça vous a pas choqué, mais Pierre Sage à la fin qui a limite un sourire, il a pris 3.
Et il dit à deux amis, on s'appelle.
Ouais. On s'appelle, hein. Puis j'ai beaucoup de respect. Mais c'est bon, oh putain, mais deux herbies, sans déconner, mais deux herbies, il a pas gagné 3 Ligues des Champions. C'est pas Guardiola, c'est pas Mourinho, deux herbies, à ce que je sache. Voilà, mais Pierre Sage, il s'est incliné. Voilà, donc à l'image de Pierre Sage, les Lensois, ils ont pas répondu présent. Mais attention, moi contrairement à
Sami, un peu dans.
Contrairement à toi, Benoît, où tu dis que c'est la fin, je pense qu'ils vont rebondir parce qu'ils seront bien meilleurs au Stade Bollaert.
Vas-y, Younes.
Moi aussi. Moi, j'ai plus trouvé que ça a été l'OM qui a été très bon, que Lens a pas été bon, que c'est une fin de série. C'est une fin de série, oui, en soi, parce que c'est une défaite. Mais je pense qu'ils vont rebondir. Ils vont rebondir des
ils reçoivent le week-end prochain. Donc
ils reçoivent le Havre, donc je pense qu'ils vont rebondir. Après, l'OM, il marque coup sur coup. Il met doublé Guiri, mais un but d'entrée de jeu. Tu vois, je pense que c'est plus l'OM qui a fait un très bon match. Moi, je me fais pas de soucis pour Lens. On l'a vu par le passé, Montpellier. champion de France, on a fait la même chose. On avait fait 2-3 erreurs par-ci par-là, mais on allait au bout. Tu te rappelles, Jean-Michel, Montpellier, le MHSC.
Il joue le Havre, là. Il faudrait peut-être appeler Didier Digard. Il va recevoir un appel de Pierre Sage. Je pense qu'il va échanger avec lui.
Bah oui, c'est possible. Pourquoi pas? Vas-y, Jean-Michel, ça te fait rire en plus, toi. Tu rigoles à ces bêtises, non?
Oui, mais c'est. Ça, heureusement, on est là, on va pas pleurer quand même. Hein, on va pas faire notre Genesio, hein, on va pas chouiner. Je pense que Lens attendait un match difficile. Ils prennent deux crochets d'entrée, Gubert.
La messe est dite.
Et moi, à la limite, j'espère qu'à la fin de ce match-là, ils ont bu le champagne, les Lensois, qu'ils ont fêté cette série incroyable. Parce que si. À partir du match contre le Havre, ils recommencent la même série là, qu'ils viennent de faire. Et il faudra compter avec eux. Parce que l'exception, c'est pas d'être battu à Marseille, même si on s'attendait à un peu plus de résistance. Incontestablement, ils ont manqué leur match. Mais l'incroyable, c'est que 10 matchs auparavant, pendant 10 matchs, ils gagnent 10 matchs.
Oui.
Et ça je crois
record que. Encore de l'histoire du club. Hein.
On l'a souligné et ressouligné, mais c'est une série incroyable. Et puis, je pense qu'ils n'ont pas l'effectif pour être. On le dit tous, c'est une surprise.
Oui, c'est vrai. Bien sûr.
Et la surprise. Donc, qu'à un moment donné, ils craquent, qu'à un moment donné, ils en prennent un match qui ne tourne pas bien pour eux. Dès le début.
Oui, mais on a le droit d'être déçu quand même, tu vois, de ce qu'ils ont montré sur ce match.
Je pense qu'ils sont déçus, les joueurs. Je pense qu'ils sont déçus parce que jusqu'à présent, ils étaient difficiles à jouer.
Tu penses qu'ils ont perdu le titre au Vélodrome ou pas?
Non, je pense pas que s'ils perdaient le titre, il y a peut-être une équipe qui peut la gagner avant que le Lens ne le perde. Je pense quand même que le Paris Saint-Germain. Et est armé avec ses nouvelles pépites.
Ah oui, avec Gros Fernandez, ça va tout changer.
Pour remporter le titre.
Ah ouais. Question que je vous pose à l'instant T, alors.
Oui.
Qui est le favori pour la deuxième place? Est-ce que c'est Lens ou c'est l'OM? Il y a 5 points d'écart. Alors,
c'est Lens.
Pour moi, c'est Lens.
Pour vous, c'est Lens encore.
Beaucoup,
pour terminer deuxième. Lens qui n'a pas de Coupe d'Europe en plus.
Non, mais c'est Lens.
Alors que Marseille va aller au moins jusqu'en quart, ce qu'on disait avec Daniel Riolo.
Lens, ils vont recevoir Le Havre sur la prochaine journée.
C'est vrai.
Marseille se déplace deux fois. Ils viennent deux fois au parc, à Paris.
Ouais.
Jean-Moins
et au Parc des Princes.
C'est pas loin. J'espère pour les Marseillais qu'il y aura deux victoires en revenant de Paris. Mais si jamais il n'y a pas de victoire.
Il y aura au moins 4 points,
il n'y a pas de victoire, ils peuvent se retrouver.
Il y aura au moins 4 points, on ne sait pas dans quel ordre, Jérôme. Peut-être qu'ils peuvent prendre un point à Jean-Moins. Et puis après.
Non, après, le PSG, sur cette journée-là, ils ont un déplacement difficile à Strasbourg.
C'est vrai.
Donc, à Marseille et à Lens d'en profiter.
Voilà, donc on suivra ça. Donc,
peut-être que le titre est relancé.
Si Bate Bruges qui se qualifie, ça va être compliqué pour la Coupe d'Europe. Et s'ils sont éliminés à Bruges.
Ils peuvent pas être éliminés à Bruges, Jean-Michel.
Derrière les oreilles.
Mais même en perdant à Bruges, tu vas te qualifier.
Ça, c'est un cas de figure. Perdre à Bruges et se qualifier.
J'ai passé l'après-midi à faire les calculs.
C'est vrai? C'est pour ça que t'es aussi énervé.
Non. Aussi bon en calcul qu'en français, ta mère, elle doit être inquiète.
Attention, ça met à tes professeurs.
Ça veut dire quoi, ça?
En français, elle te reprend, ta maman. Maman te reprend.
J'ai pas le droit à l'erreur. Et pourtant, j'en fais.
Et on l'embrasse, d'ailleurs.
On l'embrasse.
Voilà. Papa
et maman
Rotel.
Au moins, ma mère, écoute, mon père, là, il doit dormir.
Jean-Pierre?
Ouais, il s'endort.
Déjà?
Ouais.
Oh non.
Il s'endort, il a plus le peps.
Aïe, aïe, aïe. Bon. En tout cas, Lens, on l'a dit, recevra le Havre lors de la prochaine journée de Ligue 1. Ensuite, le calendrier sera 3 en Coupe de France, réception de Rennes et déplacement au Paris FC. Donc, il y a des matchs abordables sur le papier pour les Lensois dans les semaines à venir.
Mais Didier, attends-toi, Didier Digard recevra un appel.
Et d'ailleurs, Roten sélectionneur a retenu un Lensois, c'est Mathieu Hudol, dans ta liste des 26. Donc, Mathieu, conserve ce niveau de performance si tu veux aller aux États-Unis.
Ouais. Et puis surtout, demande avis à De Zerbi si tu veux continuer la progression.
C'est ça. Allez, dans un instant, tous contre Roten. C'est le quiz de Roten sur place. Avec
Jérôme, moi je te mettrai dans les petits papiers doués.
De quoi? Ah oui. Mais il voit rien. Il a joué la CAN avec la Côte d'Ivoire.
Ah ouais?
Bah, tu l'as pas vu?
Ah oui.
Je l'ai même pas vu.
Là, t'as fait une Didier Deschamps.
Ouais.
Je réfléchissais à prendre un adjoint comme toi. fois là, en activité, mais là non.
Déjà, il a fait une fois aussi pareil, je crois, avec
Koulibaly. Koulibaly, on surveille.
Il a envoyé Guy Stéphane le superviser à Naples. Et le mec, il avait 40 sélections déjà.
Ça peut arriver, c'est bon.
Ça peut arriver. Ouais, c'est vrai qu'à 40, c'est vrai que ça se voit pas encore.
Allez, le quiz dans un instant, à tout de suite.
Parce qu'il m'a impressionné. Contre
Lille. Ah bah oui, ça c'est sûr. Guéladou est très bon joueur. Mais bon, ce sera pour la Côte d'Ivoire.
Vous êtes impitoyable.
Allez, à tout de suite.
Vous êtes impitoyable.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h47 sur RMC. On est là, on est bien dans Rotten sans flamme. On finit l'émission avec le quiz de Louis Gerbier, comme tous les jours. Ils sont tous contre moi, mais ils n'arrivent pas à gagner en général. Je fais une très belle semaine au niveau du quiz. J'ai gagné hier. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis bien placé encore avec Younes Belhanda, avec Jean-Michel Larquet, qui vont former une belle équipe. Du moins, ils vont essayer.
Ensemble, Jérôme, ou je suis contre toi?
Ah non, contre moi.
Jérôme, il est avec personne.
Bah, on va gagner. Bah, on va gagner. Jean-Michel.
Avec Jean-Michel, ouais.
Comme d'habitude. Hein.
Ah, c'est possible.
J'ai rarement perdu, moi.
Bah, on va voir ça. Mm. Et dans un quart d'heure, c'est Génération After avec Nicolas Jamin qui parlera donc du rendez-vous historique pour l'OM demain. Et tout de suite, donc, c'est le coup.
RMC. Tous contre Rotten.
Ah, bonsoir Louis Gerbier.
Bonsoir Louis.
Salut l'équipe. Bonsoir Gerbier. Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Larquet.
Oui, bonsoir Gerbier.
Magnifique salut, cadeau. Younes. On vous l'a dit, maillot salut. Du PSG blanc signé, authentifié par Joao Neves grâce à notre partenaire authentiquesignature.com. Vont s'affronter ce soir Thibaut et Thomas. Salut à vous deux.
Salut.
Salut Thibaut. Bonsoir. Salut Thomas.
Là, on a des rois des maths, hein, des rois des chiffres. D'un côté, on a un prof de maths, Thibaut. De l'autre, un consultant en data, c'est Thomas. Voilà. Là, on a deux cerveaux. Là. Thibaut, t'es supporter parisien, donc le cadeau est magnifique pour toi. Est-ce que tu joues avec Jérôme?
Ah bah, tant qu'à faire.
Allez, Thibaut avec Jérôme.
Allez, Thibaut.
Et toi, Thomas, le supporter messin avec le reste du monde, ok?
Allez.
Allez, magnifique, c'est parti.
Thomas, il fait les datas, lui.
Thomas, il fait les datas. Ouais.
C'est ça.
Je ferai les datas pour Metz un jour.
Ouais, pourquoi pas.
C'est sur sa fiche de poste. Je fais les datas. Dro Fernandez.
Ouais.
Oui.
C'est il vient d'arriver au Paris Saint-Germain. C'est le thème du coup, je vais vous demander tous ses matchs. Non, je rigole. Il a été formé au Barça.
Ah ouais.
Et là, il va jouer au PSG.
Ah ouais.
Donc le thème, ça va être les joueurs formés au Barça et qui ont joué au PSG. Qui ont joué au PSG.
Oh, pas mal.
Pas des joueurs qui ont joué.
Mais il y a tant que ça.
Bah, suffisamment pour faire un quiz.
Ok, vas-y.
Voilà.
C'est bien, il n'est pas favorisé dans Paris Saint-Germain.
Bah pourquoi, pourquoi
tu connais le foot, Jean-Michel.
Attends, franchement.
Ça fait 60 ans que
tous les joueurs sont passés au PSG. On y va, c'est un petit quiz. Question, oui. T'y rendis compte.
Pas faux. Ah.
T'y rendis compte si tu poses une question à un supporter italien qui dans quelques années. Qui est cette plus forte?
Qui est cette plus forte?
Embrasse Roland.
Embrasse. Dans le studio Roland Courbis.
Hein, dans sûr. Le studio Roland Courbis, bien sûr. Quel joueur formé au Barça, passé par Paris, a joué 30 matchs avec la Squadra Azzurra?
Ouh.
Thiago Motta. Bravo. Bravo, bravo, bravo.
Younes, ça a démarré. Hein. 1-0 pour Jérôme.
Ça va un peu trop vite, Younes. Excuse-moi, je vais ralentir. Question auditeur.
Non, bah non, pourquoi?
Non, pas du tout.
Paris Saint-Germain.
Bah, arrête. Question auditeur.
Thibaut contre Thomas.
Thibaut Thomas, quel est le joueur formé au Barça, passé par le PSG, le plus titré en carrière?
Messi.
Bravo.
Qui l'a dit?
Thibaut,
c'est le prof de maths. 2-0 pour Thibaut.
Il va se le chercher, son maillot.
Ah ouais, c'est ça.
Question Costil.
Oh oui, Greg, il la sort. Oh oui, va opposer Richard.
Il est de retour.
Il est de retour. Oh, ça suffit.
Ça suffit.
Quel gardien formé au Barça a été vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG?
Navas? Non.
De quoi?
Dutruel?
Non.
Alors, vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG.
Gardien formé au Barça. Tenas.
Oui, Arnaud Tenas. 3-0, ça devient
gênant. Ça va un peu vite. Question Larqué. Ah.
26-15, code de qui n'en veut, pour les jeunes qui n'en veulent.
Gerbier, t'es un truand.
Bah non, vérifiez les lignes là pour Younes et Jean-Michel.
Il y a
un décalage, non? Un truand, ça serait un gars qui fait un quiz sur le PSG avec Jérôme, par exemple.
Exactement.
Quel ancien joueur formé au Barça et passé par le PSG au début des années 2000 a été éliminé par le PSG l'an dernier en Ligue des Champions?
Arteta.
Allez, bravo Younes.
3-1.
Jean-Michel.
Allez, Jean-Michel.
Ouais, vas-y.
Attention,
vas-y.
Maintenant, c'est une séquence homonyme.
Oula.
Mais toujours dans le thème.
Homonyme. Okay.
Homonyme.
Tout le monde sait ce qu'est un homonyme, c'est bon ?
Oui, le contraire, de, c'est pas tout à fait un synonyme.
Non, ouais, enfin, ah c'est bah, juste le même nom, quoi. Bref. Voilà. Quel joueur formé au Barça
a
passé.
Pas méta, ça vide, ouais,
quel joueur formé au Barça a passé par Paris a un homonyme dans l'effectif actuel du Barça ?
Quel... Vas-y, réponds.
Formé au Barça, passé par Paris, ouais. Homonyme dans l'effectif actuel du Barça.
Exactement. Dans l'effectif du Barça aujourd'hui, il y a un homonyme d'un gars qui est passé par le Paris Saint-Germain.
Il joue souvent à Barcelone cette saison.
Pedri.
Grande star. Grande Estrella. Grande Estrella.
Alcantara, Rafinha.
Bravo. Ça pue Google, mais c'est ça. Rafinha, Alcantara. Rafinha, Alcantara.
Et oui, Rafinha.
Bah, Rafinha.
3-2. Nouvelle réduction de l'écart.
On marquait pas Alcantara sur le maillot. Il y avait
3-2 pour Thibault, prof de maths, et Jérôme.
Attention, on continue. Quel homonyme encore ? Quel homonyme d'une légende du Barça a été formé au Barça et au PSG ?
Hein ? Et au PSG ? Cruyff. Formé au Barça et au PSG, qu'est-ce que tu
m'as ? Homonyme d'une légende du Barça. Bah oui, il a
Xavi. Simon.
Bravo.
Ah ouais,
bravo. Comme quoi, hein ?
4 à 2, purée. 4 à 2 pour Jérôme.
Et allez, une dernière. Quel homonyme d'un joueur actuel du PSG a été formé au Barça et au PSG aussi?
Neves.
Ah bah je l'ai. Non, je l'ai.
Oh, Neves, Vitinha.
Non.
Ah oui, il était annoncé comme
Luis.
Kimi.
Caïs. Oh, bravo, Caïs Ruiz.
C'est incroyable. 4 à 3 pour Jérôme.
Caïs
Ruiz.
La route.
La bonne réponse
vaut 3 points. Mais arrêtez, c'est Thibault. T'as gelé. Thibault joue avec toi, mais nous, il s'appelle comment notre data là?
Thomas Data.
Allez.
Là, il bosse le 3-5-2, il revient vers vous.
Allez, balle de match.
Allez, on va finir avec cette routaine sur une question con.
Qu'est-ce que vous êtes con?
RMC, la question con.
Mais qu'est-ce que vous êtes con alors?
Ah, mais là, ils sont avantagés.
Attention, on cherche donc un joueur formé au Barça et qui a joué à Paris. C'est Jésus en train de danser.
Quoi?
C'est Jésus en train de danser.
Formé à
Jésus
Paris.
Baile,
formé à Paris.
Jésus Baile.
Non, formé au Barça et qui a joué à Paris.
Jésus Baile.
Il danse le dimanche.
Samba.
Il danse
samba,
le dimanche ou le 14 juillet.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est Jésus.
Ah oui.
C'est Jésus.
Ouais, pas Jésus. Ah oui.
Cristobal.
Oui. C'est le Cristobal.
C'est le Cristobal.
C'est pas mal, ouais.
Ah, c'était dingue. Bravo. Bravo, Louis Hervé.
Allez.
Et bravo à Thibaut qui remporte le maillot jaune.
En route vers le Grand Chelem.
Et Younes qui dit que je triche. Tu triches.
Non, jamais. Deux victoires. Magnifique. Bravo, Thibaut.
12 contre Rotten sur RMC avec Authentique Signature. Le site de référence des maillots signés et certifiés, véritable pièce de collection. Rendez-vous sur authentiquesignatures.com.
Merci Louis Gerbier, merci Younes Belanda, merci Jean-Michel Larpé dans un instant.
Un plaisir, Génération After, de vous en mettre
avec
une bonne.
Nico Jamin, Walid Achachour, voilà. Kevin Diaz et Elton Mokolo. Et on parle de l'OM dans quelques minutes.
Et nous, demain, on se retrouve pour magnifique émission. Demain, émission incroyable. On va lancer la dernière journée, le multiplex. Il y aura 18 match en même temps demain. Et est-ce que il y aura la question, un club français, deux clubs français ou trois clubs français qualifiés pour les 16e de finale, voire les 8e de finale de Ligue des Champions? Et ben on aura la réponse demain soir. En tout cas, grande émission avec plein de surprises. Donc soyez là à partir de 18h. Bonne soirée, à demain.
RMC jusqu'à 20h. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.